Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des progrès, mais pas de compromis. L'accord de paix pour l'Ukraine attendra les émissaires américains. Envoyés en Russie n'ont pas convaincu Vladimir Poutine. La question des territoires occupés par Moscou en Ukraine demeure. La désunion du bloc central sur la question du budget. Le groupe Horizon d'Edouard Philippe s'oppose en l'état au vote du texte. Et l'ambition sans limite d'Isaac Hadjar, promu à seulement 21 ans chez Red Bull, l'une des meilleures écuries de Formule 1.
Pas de compromis, mais quelques progrès.
C'est ce que disent les États-Unis ce matin au lendemain de la rencontre à Moscou entre Vladimir Poutine et une délégation d'émissaires américains. On retrouve à Washington pour RMC Antoine Hollard. On est encore loin ce matin, Antoine, d'un accord de paix pour l'Ukraine.
Oui, parce que ces 5 heures de discussion à Moscou n'ont pas permis de régler la question des territoires. C'est l'un des sujets les plus sensibles et on comprend que la Russie n'est pas prête à transiger. Elle exige toujours l'annexion complète du Donbass, y compris les zones que son armée ne contrôle pas actuellement. Alors aujourd'hui, Vitkov et Kushner doivent rencontrer Volodymyr Zelensky pour faire un compte-rendu de leur réunion au Kremlin. Après le niet des Russes, la question c'est de savoir si les Américains vont accentuer la pression sur Zelensky pour le forcer à faire des concessions et donner à Poutine ce qu'il veut afin que les combats s'arrêtent. Trump, en tout cas de son côté, semble lassé par ces discussions qui ne progressent pas vraiment. Il n'a toujours pas réagi aux maigres résultats que ses émissaires ont obtenus à Moscou.
Et de ce rendez-vous, on retiendra aussi cette phrase de Vladimir Poutine qui a jeté un froid en amont de cette rencontre. Il se dit prêt à faire la guerre si l'Europe le souhaite, même si cela n'est pas son intention. Ce sont les mots du chef du Kremlin. La guerre en Ukraine, le sujet sera sur la table des discussions entre Emmanuel Macron et son homologue chinois Xi Jinping, soutien de Moscou. Le chef de l'État s'envole pour Pékin. Aujourd'hui, 3 jours de visite et la volonté pour l'Élysée d'apaiser les relations tendues entre les deux pays sur fond de tensions commerciales.
RMC 7h02. Avis de turbulence en Macronie.
En marge de la reprise de l'examen du budget de la sécurité sociale hier à l'Assemblée nationale, le bloc central se fragilise alors que Sébastien Lecornu continue de chercher des compromis avec les oppositions. Le Premier ministre se retrouve à devoir gérer une situation de fronde au sein de son propre camp, Romain Cluzel.
Et les députés Horizon annoncent la couleur. Avant même la fin des débats, ce budget de la sécurité sociale, ce sera sans eux, explique le patron du groupe, Paul Christophe.
Nous ne voyons pas comment voter favorablement le document qui est mis sur la table et que ça sortirait soit un vote contre, soit une abstention en fonction de l'évolution.
Une position que regrette son collègue de Renaissance, Pierre-Alexandre Anglade. Le Bloc central a déjà accepté la suspension de la réforme des retraites. Alors le député attend désormais un geste du PS.
J'attends de voir les compromis qui seraient ceux des socialistes dans la direction du Bloc central et du gouvernement. Parce qu'en réalité, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de compromis qui ont été faits de la part du Bloc central. Mais moi, je pense qu'il faut que nous soyons capables de forger ce compromis et de trouver une majorité dessus.
Les députés de droite, eux, ne savent pas encore s'ils voteront ou non. Le LR Jean-Didier Berger met en avant plusieurs conditions.
Par exemple, qu'il n'y ait pas d'augmentation de fiscalité supplémentaire. C'est le sujet notamment de la CSG patrimoniale. Nous ne voulons pas de fiscalisation supplémentaire dans le pays déjà le plus fiscalisé au monde. Et ça paraît bien légitime.
Et justement, cette question de la CSG sur le patrimoine sera au cœur des débats à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Et contre le budget faible mobilisation, hier dans la rue, un peu moins de 32 000 personnes ont répondu à l'appel des 3 syndicats. C'est 15 fois moins qu'en septembre dernier. L'éducation nationale secouée par un nouveau scandale à Limoges. Le directeur d'une école maternelle de 54 ans a été mis en examen et écroué pour détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique. Il est également soupçonné d'avoir eu recours à la prostitution de mineurs. L'annonce a surpris ses collègues sous le choc, Louis Salé.
Oui, d'après une source syndicale, la communauté éducative de l'établissement et les parents d'élèves sont sidérés, abasourdis par cette nouvelle. Personne n'avait le moindre soupçon concernant ce directeur. L'enseignant, âgé d'une 50aine d'années, était en poste depuis plus de 10 ans dans cette école maternelle. Il a évidemment été suspendu de ses fonctions par le rectorat qui se dit particulièrement attentif à la situation. Les faits pour lesquels cet homme est placé en détention provisoire ne seraient pas en lien direct avec son activité professionnelle, a précisé la procureure. Et selon une source proche de l'enquête, les faits de viol sur mineurs concerneraient un recours à la prostitution d'un garçon âgé de 13 ans.
La justice algérienne rend son verdict dans le procès en appel du journaliste sportif français Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison en juin dernier pour apologie du terrorisme. Son avocat espère une issue favorable à la faveur d'un apaisement des relations diplomatiques entre Paris et Alger.
À 3 semaines des fêtes, la saison des marchés de Noël s'est ouverte et ça ne plaît pas à tout le monde.
Vin chaud, raclette et idées cadeaux sur le papier. On est dans l'ambiance, mais cela peut virer au cauchemar, comme à Annecy, où les habitants de la vieille ville réunie en collectif ont décidé de monter au créneau contre l'installation de chalets installés sous leurs fenêtres, remontés contre les incivilités, les nuisances sonores aussi de ce marché en cœur de ville déjà assailli par les touristes. Reportage de notre correspondant sur place, Vincent Chevalier.
Depuis la rue, difficile de rater les banderoles accrochées au balcon par certains habitants, dont Anne-Sophie.
Une des banderoles, c'est le marché de Noël, le quartier à les boules.
Bruit, odeur, surtourisme pour cette membre de l'association des résidents de la vieille ville d'Annecy. Les lieux ne sont pas faits pour accueillir un tel événement et les nuisances sont trop nombreuses.
Nous avons évidemment des odeurs, des détritus qui s'amoncellent, notamment le long de l'église. Véritablement, on a le sentiment que la ville est un dépotoir à ciel ouvert.
Entre les écharpes et le vin chaud, le sujet divise même les visiteurs venus profiter des festivités.
Annecy, de toute façon, est envahie par les touristes. C'est blindé, tout le temps. Dans le centre, comme ça, je trouve ça plus chaleureux et plus cocooning.
La mairie le reconnaît, il y a des pistes d'amélioration, notamment sur le traitement des déchets, mais pas question de revenir en arrière pour Alexandre Mulatier-Gachet, premier adjoint en charge des grands événements.
Nous, ce qu'on voulait proposer, c'était l'esprit de Noël. Que ça reste festif, que ce soit pas non plus une boîte de nuit, que ce soit une musique qui soit non plus pas excessive. Après, effectivement, peut-être qu'ils auraient aimé qu'il n'y ait rien du tout. Et nous, c'est pas notre volonté, en tout cas.
Le marché de Noël est ouvert jusqu'au 4 janvier prochain.
La reprise de l'entraînement ce matin à Nice sous escorte policière, c'est la conséquence de violences subies par 2 joueurs. Dimanche soir, une enquête a été ouverte pour violences aggravées. Terem Moffi et Jérémy Boga, en arrêt de travail, ne veulent plus porter les couleurs du club. D'autres joueurs choqués ont demandé à partir au mercato d'hiver. Et l'entraîneur Francaise devrait annoncer son départ ce matin à son vestiaire.
Et puis changement de vitesse pour Isaac Hadjar.
Le jeune pilote tricolore rejoindra Red Bull l'année prochaine, promu aux côtés de Max Verstappen, quadruple champion du monde de Formule 1. Virginie Fulpa est avec nous ce matin. Il confirme à l'équipe avoir appris la nouvelle la semaine dernière. Rien de surprenant pour le Français de 21 ans, sûr de sa force après une seule saison au compteur et une ambition débordante.
Et son surnom de Petit Prost n'est pas usurpé. Isaac Hadjar, c'est de l'ambition et de la réflexion. Il a appris la semaine dernière qu'il allait rejoindre Red Bull. À 21 ans, il pourrait trembler, mais pas du tout. Si Red Bull estime que je suis prêt, c'est que je suis prêt. C'est aussi simple que ça. Isaac Hadjar n'aime pas la fausse modestie. Quand il fait le bilan de sa première saison en F1, il dit qu'il a fait du bon boulot. Et quand il est monté sur le podium du Grand Prix des Pays-Bas, pour lui, c'était le tournant, le moment où il s'est dit que les portes de Red Bull allaient s'ouvrir. Il n'arrive pas non plus en terrain conquis. Il faut être solide aux côtés de Max Verstappen. Le quadruple champion du monde a déjà eu 6 coéquipiers. Il les a éteints les uns après les autres. Et alors, ça fait pas peur à Isaac Hadjar. Il a toujours voulu se confronter au meilleur. Alors là, il va être servi. Le pilote français sait bien que Verstappen a de l'avance sur lui. Mais son but, c'est de se rapprocher petit à petit en observant, avec un objectif pour 2026, gagner un Grand Prix, un premier.
Et on lui souhaite de l'ambition aussi, il en faudra pour les Bleus du 15 de France. Fixés sur leur sort ce matin, tirage au sort des phases de poule pour la Coupe du Monde de rugby sera dans 2 ans. Les Bleus sont dans le chapeau. Hein. Il faudra éviter l'Australie, pays hôte de la compétition.
C'était le journal de Thibaut Texer. À 7h08, on part au 32-16. Vous êtes nombreux à réagir à cette étude sur le non-respect, tout simplement, du code de la route. Et c'est le témoignage de Maxime ce matin. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Maxime, vous êtes taxi en Loire-Atlantique. Vous êtes aux premières loges, j'allais dire, pour observer tout ça.
Ah bah oui, moi je roule tous les jours. Je fais à peu près je fais du scolaire, donc je fais pas autant de routes que les taxis normales.
Ouais.
Mais je fais à peu près entre 100 à 150 bornes par jour.
Ouais.
Et honnêtement, si je fais pas attention, je pense qu'il me faudrait passer 2 à 3 voitures par jour.
Ah. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'il faudrait changer de voiture, quoi, parce que parce qu'elle s'en prendrait.
Elle serait morte la voiture en fait. C'est entre les queues de poissons, les gens qui s'insèrent sans regarder, ceux qui forcent, qui respectent pas le code de la route, parce que forcément nous on a le droit par exemple de prendre les voies de bus. Au niveau des cédés de passage que les gens ont pour laisser passer les gens qui sont dans les voies de bus, 3/4 du temps les gens ne le respectent pas.
Oui, et alors attention, hein, ce que dit l'étude, c'est qu'il y a bien sûr les automobilistes, mais il y a aussi les piétons. 3 piétons sur 4 traversent, quoi qu'il arrive, même si le feu est pas le bon pour eux, quoi.
Ah bah, entre les piétons et j'ai fait un peu de ville, moi, avec ma trottinette, 3/4 du temps actuellement, je prends beaucoup de périphériques.
Ouais.
J'ai fait un peu de ville, là, j'ai pas mal de ville en ce moment, c'est un changement de trajet.
Vous êtes où? Vous êtes autour de quelle ville?
Alors moi, je fais du Rezé, Saint-Herblain et je vais principalement aussi dans Nantes.
D'accord, donc vous êtes autour de Nantes, quoi.
Voilà. Et honnêtement, dans Nantes même, quand je vais, moi, le jeudi dans Nantes même, si je ferais pas attention, je pense que je tuerais 3 ou 4 cyclistes par jour.
Ouais, ça. Ouais, il faut être dans une espèce d'attention permanente aux aguets, à la fois vis-à-vis des autres automobilistes, mais c'est vrai que désormais, on a quand même l'impression que, je cite, griller des feux, finalement, c'est devenu parfaitement normal, classique, et je le dis, hein, pour les automobilistes, mais aussi pour les piétons. Merci beaucoup, Maxime. On reviendra là-dessus, tiens, aussi, tout à l'heure, vous l'entendrez, avec Louis Sarkozy. Ne manquez pas sa chronique de droite. Ce sera à 7h50. Il est 7h10 sur RMC. Et on va revenir sur ces affrontements hier dans le Doubs entre des agriculteurs et des gendarmes présents en nombre. Bonjour Laurence Dionnet, vous êtes la porte-parole de la Confédération paysanne dans le département du Doubs. Vous étiez sur place, vous vouliez empêcher l'abattage du troupeau pourtant vacciné à cause d'une vache, seulement, qui était malade. Tout un troupeau qui a dû être décimé. Ça n'est pas le principe de précaution, dites-vous, mais c'est un principe de disproportion. Les agriculteurs désespérés et en colère, vous nous le dites dans un instant sur RMC. Il est 7h11.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. 83 vaches. 83 vaches toutes vaccinées, une seule malade, et c'est tout le troupeau qui a dû être abattu. Tout cela s'est passé dans un cadre d'extrême tension et de violence. Des gaz lacrymogènes et des LBD utilisés contre les agriculteurs. Ils étaient nombreux à se mobiliser pour tenter de sauver ces vaches, en vain. Bonjour Laurence Lyonnais. Vous êtes la porte-parole de la Confédération paysanne dans le département du Doubs. Ça s'est donc passé hier à Pouillèze-Français dans le Doubs. Cette maladie, c'est la dermatose nodulaire. Je le répète, les vaches étaient pourtant vaccinées. Les agriculteurs s'opposaient au fait qu'elles soient abattues. Première question d'abord, le troupeau a bel et bien été abattu.
Des jeunes génisses et des petits veaux, hein, le dernier étant.
Je vous entends très mal, malheureusement. Laurence Lyonnais, allez-y, je vous écoute.
Des vaches, mais aussi des génisses et des petits veaux. Hein. Le dernier était né dans la nuit de dimanche à lundi.
On sent évidemment votre émotion. Vous étiez d'ailleurs sur place. Vous êtes la porte-parole de la Confédération paysanne. Cet abattage, il a donc été validé par le tribunal administratif de Besançon. C'est la loi. Mais vous estimez que ce principe, qui est soi-disant un principe de précaution, est en train de devenir dévoyé.
Oui, alors c'est la loi, c'est plutôt un règlement, et c'est la manière dont la France a choisi d'appliquer un règlement européen.
C'est-à-dire que le principe de précaution est en train de devenir un principe, dites-vous, de disproportion?
Bah oui, parce que les éleveurs ont respecté toutes les règles, ils ont fait tout ce qui leur avait été demandé. On nous a dit qu'il y aurait une immunité vaccinale à 28 jours. Donc toutes les règles sont basées sur ces 28 jours qui permettent à nouveau des mouvements sous contrôle, mais des mouvements d'animaux à partir de 28 jours. Là, on a des animaux qui étaient vaccinés depuis 38 jours. Les élevages autour étaient vaccinés également et on nous dit ça ne suffit toujours pas. Depuis 4 mois, nous vivons, pas 4 mois, 5 mois maintenant, depuis que la dermatose est arrivée en France dans les Savoies, on a des discours qui sont sans cesse revus pour justifier la manière dont la France, dont l'État français a décidé d'appliquer cette politique. Alors tout d'abord, ça allait s'arrêter en Savoie. Après, si ça s'est diffusé, c'est parce qu'il y a des agriculteurs, des éleveurs qui jouaient pas le jeu, qui étaient des délinquants. Et puis maintenant, quand on continue à dire ça ne fonctionne pas, la maladie continue à se diffuser, c'est une gestion en plus qui est absolument inhumaine, et ben c'est 175 gardes mobiles hier pour gazer les paysans, les paysannes, y compris les éleveurs eux-mêmes sur leur terrain devant le bâtiment où étaient leurs animaux. C'est juste inconcevable.
Parce qu'effectivement, ça s'est traduit par une extrême tension, des gaz lacrymogènes, des LBD utilisés contre les agriculteurs. Il y avait donc 200 gendarmes mobilisés, pratiquement un gendarme par agriculteur mobilisé, puisqu'il y avait 300 personnes en face. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous considérez qu'on est dans un moment où ça explose, cette colère?
Ah oui, totalement. Alors, mais je veux dire, on était. Alors, certes, en colère, mais c'est notre colère d'éleveurs et d'éleveuses. Moi, je le suis aussi. Depuis le début de cette crise sanitaire, on se demande toutes les nuits Et si ça arrive chez moi, comment ça va se passer? Donc là, il y a une empathie, un mouvement de solidarité qu'on souhaitait exprimer. En attendant le résultat du référé au tribunal, on souhaitait entourer cette famille d'éleveurs parce que tout le monde s'identifie à eux, mais c'est pas juste les éleveurs, les éleveuses. Il y avait les gens du village, des villages alentours, des citoyens. Il y avait les jeunes du lycée agricole qui est juste à côté. Enfin, je veux dire, ça, c'est l'ensemble d'un tissu rural. C'est l'ensemble d'une communauté qui voulait entourer cette famille. Il y avait absolument on était déterminés, mais déterminé à accompagner l'éleveur et sa famille jusqu'au résultat du référé. Donc le passage en force, les intimidations, les coups de pression, les manifestants, on a réussi à se mettre, on a été pris, cueillis à 7h35, hein, ils ont envahi le terrain de la ferme, alors que l'arrêté ne prévoyait qu'une intervention à partir de 8h. Personne à la préfecture ne nous répondait sur la légalité.
Vous en appelez même à la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard.
On est dans son département et Annie Genevard a fait la sourde oreille. Elle a même répondu au sénateur Longeau de notre département que ce n'était pas de son ressort. Alors, qui décide? Qui décide aujourd'hui en France? Qui décide de gazer des paysans et des paysannes qui veulent simplement défendre leur outil de travail et au-delà toute leur vie?
Parce qu'on le gaz lacrymogène et les LBD donc qui ont été utilisés contre les agriculteurs hier, on voulait entendre et comprendre effectivement ce qui s'était passé. Merci beaucoup Laurence Lyonnais, porte-parole de la Confédération paysanne dans le Doubs. Il est 7h19 sur RMC. Pendant ce temps-là, l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier, est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, le célèbre Gaulois Astérix va partir s'installer chez les Germains.
Et oui, un parc Astérix va s'installer outre Rhin, c'est prévu pour dans 5 ans. Les rois des parcs d'attractions, Apolline, c'est pas les Américains, c'est les Européens, et ça fait 5 siècles que ça dure.
Vous allez nous le dire dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 50 secondes sur RMC, 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Ah oui. Il est 7h21 et on va remonter le temps sur RMC et RMC Story. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur Chevalier, on l'a appris hier, un parc Astérix va ouvrir en Allemagne, horizon 2030-2031. C'est un événement puisque pour la première fois, le parc Astérix s'exporte à l'étranger.
Oui, et si c'est en Allemagne, c'est pas un hasard, hein, puisque à part la France, l'Allemagne, c'est le pays où on vend le plus d'albums Astérix. C'est aussi évidemment un couronnement pour ce parc qui est le deuxième parc d'attractions français en fréquentation. 2,9 millions de visiteurs en 2024, juste derrière Disneyland Paris.
Ailleurs aussi, en Europe, on apprécie les parcs d'attractions.
Et oui, oui, on aime tellement ça, les parcs d'attractions, qu'on les a inventés, hein, puisque le premier parc d'attractions, c'était au Danemark en 1583. Donc
1583
ça date vraiment bien longtemps. Alors, on avait mis ça au milieu d'une forêt, et alors le concept était globalement le même qu'aujourd'hui, hein, mais dans une version un peu moyenâgeuse. Il y avait des artistes ambulants, des troubadours, des jongleurs. Cet endroit, ça s'appelle Bakken, et figurez-vous qu'aujourd'hui, 4 siècles plus tard, c'est toujours un parc d'attractions, vous pouvez y aller pendant vos vacances.
Extraordinaire, il n'y avait pas de grandes roues quand même.
Non, les grandes roues, c'est un peu plus tardif, et pour le coup, c'est une invention américaine, mais la France y est mêlée, je vous explique pourquoi. En 1893, Chicago accueille l'exposition universelle, et la ville voulait construire quelque chose d'aussi impressionnant que la Tour Eiffel qui venait d'être érigée à Paris. Donc les organisateurs ont une idée, une grande roue, elle faisait presque 100 mètres de diamètre, évidemment le public va adorer, et ça n'arrivera en France qu'en 1900 à Paris.
Les montagnes russes, ça date de quand?
Alors les montagnes russes, ça date du 18e siècle, et je ne vous étonnerai pas si je vous dis que ça vient de Russie, forcément. À l'origine, c'était des gigantesques toboggans recouverts de neige sur lesquels on faisait de la luge. Et au début du 19e siècle, l'armée russe occupe Paris puisqu'elle avait battu un certain Napoléon Bonaparte. Les soldats russes vont faire comme chez eux, ils installent des montagnes russes en plein Paris. Les Parisiens adorent, donc ça va rester. C'était dans le quartier de Belleville. Alors ça ressemble à quoi? Des très grands toboggans en bois avec des chariots pour les dévaler. Oui, il fallait qu'on fasse sans la neige, hein, évidemment.
Quand est-ce que les premiers vrais parcs d'attractions à proprement parler apparaissent avec des manèges?
Alors ça arrive ça dans la deuxième moitié du 19e siècle. Les fêtes foraines envahissent nos villes. Elles se déplacent un peu partout. En France, le plus vieux parc d'attractions, c'est le jardin d'acclimatation. Ça date de 1860, alors à l'origine c'était un petit zoo, et petit à petit on a ajouté des manèges et des attractions pour les enfants.
Et aujourd'hui, quels sont les plus grands parcs du monde?
Alors, en superficie, c'est le Walt Disney Resort en Floride, dans la ville d'Orlando. Mais en nombre de manèges, c'est un parc dans l'état de l'Ohio aux États-Unis. Ça s'appelle le Cedar Point. Et si on prend le classement des meilleurs parcs, c'est Europa Park, qui est justement un parc allemand. En 2024, il a reçu le Golden Ticket Award, hein, c'est l'équivalent des Oscars pour les parcs d'attractions. Et c'était la neuvième fois qu'il recevait ce prix.
Et désormais, donc, on va aller les concurrencer sur leur terrain.
Exactement,
avec notre Astérix. Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Il est 7h24, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour. Salut Arnaud.
Bonjour.
Arnaud, mon invité ce matin, c'est la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon.
Ouais, dépêche Maud. Allez, parce qu'elle n'est pas encore arrivée.
Wow.
Ouais, un jeu de mots de ouf. Ouais, on attaque avec du solide. Elle n'a pas un boulot facile, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, la pauvrette. La petite Maud. Son rôle, c'est de mettre en valeur les décisions du gouvernement le plus pété du quinquennat, le plus pété de toute la 5ème République. C'est pas facile à vendre à la presse, hein. Je sais pas ce qu'elle va vous dire. C'est comme être un vendeur de voitures, mais n'avoir que des Fiat Multipla à refourguer. Cette là, je vous jure, elle est super. Ah, c'est un peu moche quand même, c'est atypique. Il faut le voir avec un œil neuf. Non, si elle doit vendre des trucs péras avec un grand sourire, faudrait la remplacer par le patron du BHV, Frédéric Merlin, lui c'est père. Salut les fouilles merde. Au gouvernement, on a à cœur de prendre soin au maximum des ploucs, descendants et des villageois. Alors bien sûr, il est dramatique que les provinciaux et les ouvriers soient illettrés. Heureusement, ça leur fait un atout, car ils ne savent pas compter non plus. C'est ainsi que nous composons notre budget. Alors Apo, tu peux m'interroger, je m'en fous, on fera ce qu'on veut. Et si les gens protestent, les CRS sont mieux nourris et courent plus vite. Lui, il est plus tonique.
Non, c'est vrai que c'est vendeur.
Le gros dossier, c'est le budget. Le gouvernement n'a pas de budget. Comme nous, ça nous fait un point commun. Pour Noël, on n'a pas de budget non plus.
Non,
très bien, mes nièces. J'espère que vous aimez les oranges, les filles. Sur la sécurité sociale, Maud Bréjon a supervisé plusieurs travaux parlementaires. C'est Maud et travaux. Oh, elle est excellente, une deuxième fois. Et elle a prévenu, sans budget, le déficit atteindra 30 milliards d'euros en 2026. Et elle a même ajouté discrètement, à 30 milliards de déficit, chaque Français devra vendre un rein pour éventuellement pouvoir soigner ceux qui restent. Qui a dit qu'on n'avait pas de solution dans ce pays? Alors Maud Bréjon souhaite aussi que la droite et le centre aient un candidat unique à l'élection présidentielle de 2027. Bonne chance! Édouard Philippe déteste Attal, qui déteste Retailleau, qui déteste Bayrou, qui déteste Braun-Privet, qui déteste Darmanin. Et à la fin de la chaîne, les Français les détestent tous globalement. Mais j'ai une piste. Apolline, il y a un Alain Duhamel qui sommeille en moi.
Oh, j'aime.
Il y a un homme que les Français ne détestent pas. C'est Stanislas Guérini. Personne ne le déteste parce que tout le monde l'a oublié. Donc lui, il peut aller voir Macron.
Non, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai décidé de me présenter à la présidentielle.
Qui êtes-vous, monsieur?
Ben Stanislas Guérini.
Écoutez, un peu de sang neuf, ça fera pas de mal.
Bah, j'ai été votre ministre pendant 10 ans quand même.
Ah bon?
Mais non.
Mais en France, chez moi, vous me faites une blague. Sortez les caméras, allez, c'est un prank TikTok. Ah, je crois qu'elle arrive. Ouais, je crois qu'elle arrive. Ah. Le défilé de Maud a commencé dans les couloirs. Oh, troisième. Allez, à tout à l'heure.
C'était Arnaud de Manche, il est 7h27. Et c'est l'heure. C'est l'heure de jouer. C'est l'heure de jouer et de vous faire passer un fabuleux Noël grâce à RMC. Venez donc ouvrir le calendrier de l'Avent avec nous ce matin. Journée spéciale high-tech, nouvelle technologie. On va avoir des cadeaux de folie cachés dans le calendrier de l'Avent. Il y a gagné des télés, des MacBook Air, des iPhones, des montres connectées. Pour jouer, c'est tout de suite. Vous envoyez Noël au 7-32-16. Noël au 7-32-16. On est très, très, très heureux de vous gâter. Et le gagnant sera en direct avec nous à 8h20. Bonne chance à tous, 7h20.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le code de la route, une option pour beaucoup d'automobilistes, cyclistes et même piétons. Des piétons qui sont 70% à ne pas respecter les feux rouges. Le sondage sur l'antisémitisme à l'université enterré après avoir créé la polémique. Et puis le 15 de France connaîtra ce matin ses 3 premiers adversaires pour le prochain mondial de 2027. c'est la jungle sur la route. Vous le constatez forcément, peut-être même en ce moment, si vous nous écoutez depuis votre voiture. Et ça se confirme avec ce nouveau baromètre de la Fondation Vinci Autoroute. Nombreux sont les usagers à prendre des libertés avec le code de la route et notamment avec le respect des feux rouges. 40% des cyclistes les grillent régulièrement et ça monte même à 70% chez les piétons. Amélie Courtet l'a constaté pour RMC en plein cœur de Paris, près de l'Hôtel de Ville, où la circulation est cauchemardesque.
Oui, ici, même quand le feu des piétons passe au vert...
Non, on peut pas traverser. Non.
Marie-Hélène rattrape sa mère par le bras. Un vélo vient de passer devant elle à pleine vitesse.
Après, maintenant, il y a un vélo qui arrive de l'autre côté.
Vous faites hyper attention.
Bah, je fais attention, d'autant plus quand on est avec une personne âgée qui a des soucis pour marcher. C'est trop dangereux pour elle.
De leur côté, les cyclistes pilent, klaxonnent, slalomment entre les piétons. Le danger, ils en ont conscience.
Faut être vigilant. En vélo, non, je fais attention.
Et se justifient pourtant de griller le feu rouge.
S'il y a personne, j'ai passé.
Comme je suis à la bourre.
C'est une voie droite, donc en fait, de freiner 10 fois sur la même voie.
Ouais, bon, les piétons non plus respectent pas non plus à 100% les feux.
Les piétons sont même plus nombreux à passer au feu rouge.
Les piétons sont carrément au bord de la route. C'est n'importe quoi. Et là, ça traverse. Voilà. Tranquille.
Merwan, chauffeur VTC, sourit nerveusement, mais cyclistes comme piétons, leur mauvaise habitude l'agace.
Le feu passe au vert, mais ça vous donne pas la possibilité d'avancer. Faut que vous continuez à vérifier vos rétros, les angles morts, voir s'il n'y a pas un cycliste qui passe ou un piéton qui va se mettre à courir. C'est anxiogène.
À tel point que lui a décidé de modifier ses horaires, il travaille de nuit pour circuler plus apaisé.
Et puis du nouveau dans l'affaire des airbags défectueux Takata avec cette nouvelle action collective déposée aujourd'hui par l'association de consommateurs CLCV qui va représenter 150 propriétaires de véhicules Stellantis selon les informations du journal Le Parisien. L'UFC que Choisir avait fait de même pendant l'été. Il est 7h33 sur RMC et ils font souvent la une de l'actualité. Les cas d'antisémitisme à l'université se multiplient en France depuis le 7 octobre 2023, mais ils restent très difficiles à mesurer objectivement, et on n'y verra pas plus clair puisque le sondage commandé par le ministère de l'Enseignement supérieur a finalement été retiré. Décision prise par l'IFOP et par le Centre de Recherche Politique de Sciences Po, Romain Houg, après une levée de bouclier sur la méthodologie du sondage.
Oui, c'est un sondage qui prenait la forme d'un questionnaire en ligne de 44 pages dans lequel on demandait aux personnes au personnel des universités de classer certaines opinions ou stéréotypes que l'on entend parfois à propos des Juifs, de tout à fait vrai à tout à fait fausse. Mais le problème, c'est que les répondants devaient aussi préciser leur âge, genre, région, type d'établissement, fonction, et de se classer sur le spectre politique, des données qui permettent d'identifier ceux qui ont répondu et donc de rompre avec le principe d'anonymat, dénonce notamment la Ligue des droits de l'homme et 6 enseignants-chercheurs qui ont déposé un recours vendredi devant le Conseil d'État demandant d'interrompre la réalisation de ce sondage. Sondage finalement interrompu directement par les organismes qui en avaient la charge, le CEVIPOF et l'IFOP, face au tollé suscité dans les universités. Les conditions de sérénité et donc de participation suffisantes n'étaient plus réunies, peut-on lire dans ce communiqué.
Les précisions de Romain Houg pour RMC. Près de 5 heures de discussion, des échanges constructifs selon Washington, mais toujours aucun compromis obtenu de Vladimir Poutine sur les territoires occupés en Ukraine. Les États-Unis n'ont pas obtenu grand-chose de leur passage à Moscou. Emmanuel Macron, lui, se rend en Chine pour une visite d'État de 3 jours et les défis qui l'attendent sont nombreux. Hélène Terzian du service politique d'RMC. L'objectif du président, c'est de refluidifier les relations entre les deux pays.
Oui, et les Chinois soignent la scénographie. Visite de la cité interdite, accueil au palais du peuple, puis Emmanuel Macron et Xi Jinping iront ensemble dans la province du Sichuan. L'Élysée y voit une marque particulière d'attention. De quoi favoriser les échanges sur le fond, sur les relations commerciales d'abord. Emmanuel Macron, flanqué de 35 patrons de Veolia, Airbus, Danone, vient signer des contrats. Il compte aussi inciter les investissements chinois en France, tout en clarifiant les règles du jeu, insiste son entourage, pour lutter contre la concurrence déloyale. Il faut que l'Europe soit respectée, dit-on, comme grand partenaire de la Chine. Il sera aussi question de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron attend du président chinois qu'il joue son rôle, celui d'intermédiaire auprès de Moscou, pour convaincre Vladimir Poutine d'accepter un cessez-le-feu.
Il est 7h35 sur RMC. C'est ce matin que le 15 de France va connaître ses premiers adversaires pour le Mondial 2027 en Australie. Tirage au sort à 10h, mais après une tournée de novembre plutôt mitigée. Où en sont vraiment les Bleus, Pierre Thévenet?
Oui, après le dernier match de la tournée gagné face à l'Australie, l'analyse de Fabien Galthié était claire. Je cite, on n'est pas au même niveau qu'il y a 4 ans. Il y avait quelque chose de plus solide, de plus homogène. Sans s'alarmer, le sélectionneur concède que les Bleus ont du travail pour rattraper l'Afrique du Sud, meilleure nation du monde. Constat partagé par le consultant rugby pour RMC Sport, Yann Delegue.
Effectivement, on n'a pas cette impression de puissance que dégageait cette équipe de France, notamment l'année dernière encore.
Pas de raison non plus de s'inquiéter pour l'ancienne internationale.
On peut encore faire très mal. Maintenant, effectivement, il va falloir faire un bon tournoi. Et puis il va falloir commencer à se mettre dans la tête que la Coupe du Monde va vite arriver. Je crois qu'il doit rester une quinzaine de matchs, ça va très très vite. J'ai l'impression qu'on a quitté la Coupe du Monde précédente, mais qu'on est encore dans les regrets de celle-ci et qu'on n'a pas vraiment mis l'objectif sur 2027. Et il est le temps de le faire maintenant.
Avec 2 victoires en novembre, le 15 de France s'est quand même assuré un statut de tête de série. L'Écosse et l'Australie seront les équipes à éviter tout à l'heure lors du tirage au sort effectué à Sydney à partir de 10h, heure française.
À Nice, la reprise de l'entraînement s'annonce tendue avec 2 joueurs qui manqueront à l'appel, ce violemment pris à partie par leurs supporters dimanche soir. Le reste du groupe devrait se voir annoncer le départ de leur entraîneur Franck Hez après les échauffourées qui ont poussé d'ailleurs le procureur de la République à ouvrir une enquête pour violence aggravée.
Et puis le quintet, c'est aujourd'hui à Vincennes.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 6, Jablonski. L'outsider, c'est le 8, Diva del Ronco.
C'était le journal d'Élise Dangean. 7h37, vous êtes nombreux à témoigner du code de la route qui n'est pas respecté. C'est la jungle sur la route. Et vous êtes nombreux à nous le dire ce matin, parfois même au volant. Bonjour Guillaume.
Bonjour Apolline.
Guillaume, qui est donc conducteur de bus en Haute-Garonne, peut-être au volant là d'ailleurs.
Oui, là je suis à l'arrêt pour l'instant.
Ah, tout va bien, parce que justement, précisément, vous vouliez l'illustrer, cette difficulté à respecter le code de la route. Vous faites comment, vous, au quotidien? Vous observez quoi?
Alors, comme je disais par message, moi je suis à la fois conducteur scolaire et conducteur urbain.
Ouais.
Deux fléaux que je constate quotidiennement, quand je suis en scolaire, c'est... moi je conduis un véhicule de plus de 13 mètres. Je rencontre tous les jours des gens dans les ronds-points qui veulent tenter de me passer par l'intérieur. Ouais. Je vous explique. Vous savez bien que quand avec un car on s'engage, faut prendre de la profondeur, tout ça, je prends de la place.
Ouais.
Bah, j'ai toujours un petit malin qui veut essayer de me prendre l'extérieur et donc du coup, bah, je le manque de le taper. C'est toujours ça. Et
donc, vous devez faire hyper gaffe tous les jours là-dessus.
Ah, tous les jours. Vigilance sur les angles morts et tout, c'est infernal. Et le deuxième point par rapport à l'auditeur précédent que vous aviez eu, lui qui citait des cyclistes, le truc que je rencontre moi quand je fais l'urbain, ce sont les piétons. Les piétons qui traversent la route alors qu'ils ont un passage clouté à environ 1 mètre 2.
C'est exactement ce qui ressort, c'est que les piétons eux-mêmes ne respectent absolument pas. C'est-à-dire, vous avez beau avoir un feu rouge, ils traversent quoi qu'il arrive. Et donc c'est une difficulté supplémentaire. En fait, on sent que le code de la route, c'est quasiment devenu optionnel pour une partie des Français. Merci Guillaume pour votre témoignage. Et comme Guillaume, vous n'hésitez pas, vous allez voir aussi d'ailleurs dans 15 minutes maintenant, vous entendrez les solutions assez radicales de Louis Sarkozy sur ce sujet du code de la route. Donc ce sera à 7h50. Pour l'heure, il est 7h39. Et on va revenir dans un instant sur ce grand paradoxe. La France ne fait plus de bébés, mais en même temps ne veut pas forcément payer. La pyramide des âges qui est en train de s'inverser. Est-ce qu'il faudra travailler plus longtemps, augmenter la TVA, ne plus faire de bébés? Eh bien, ça commence à nous coûter très cher. Bonjour David Duhamel.
Bonjour.
Vous êtes économiste, spécialiste de la démographie. La Cour des comptes qui alerte sur ce vieillissement de la population. Je vous pose la question dans un instant de ses conséquences. Il est 7h39.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43 sur RMC et RMC Story. On ne fait plus de bébés et ça commence à nous coûter très cher. Est-il encore possible de conserver notre modèle social tant que la population continue de vieillir? Je vous pose la question, David Duhamel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, enseignant à Sciences Po et auteur de cet ouvrage qui s'appelle « Un monde sans enfants ». C'est aux éditions Buchet-Chastel. Ce monde sans enfants, il commence à alerter y compris les pouvoirs publics et les finances publiques. La Cour des comptes dit qu'on ne peut pas continuer à avoir notre modèle social, mais dans une population vieillissante. Ça n'est plus tenable.
Alors, c'est compliqué, en effet. Alors, mon livre, vous l'avez dit, c'est un monde sans enfants. Donc, la France fait partie du monde. Il faut comprendre que c'est un truc mondial, d'abord. Et la France est plutôt mieux placée que les autres pays. Donc, il faut quand même pas rentrer dans le catastrophisme. Ensuite, la Cour des comptes dit un certain nombre de choses qui sont toutes vraies et intéressantes. Premièrement, elle dit on s'est pas occupé de la crise démographique.
Et pourtant, franchement, c'est quelque chose qu'on peut anticiper et qu'on peut voir venir.
Oui, alors on peut anticiper, mais elle dit aussi, attention, ça va plus vite que prévu. Et effectivement, ça va plus vite que prévu. Et moi, je pense que ça va aller encore plus vite.
Ça veut dire quoi, encore plus vite?
Par exemple, l'INED, il y a quelques années, a dit en 2027, le solde naturel devrait devenir négatif. On devrait avoir plus de morts que de naissances.
Ça y est, c'est fait, depuis cet été.
C'est ça. C'est venu 2 ans plus tôt. Donc de même, je pense que le taux de fécondité des femmes descend un peu chaque année. On est passé de 2 à 1,6 en 15 ans, donc moins 20% en 15 ans. C'est beaucoup, mais il y a des pays qui ont fait bien pire. Mais je pense que ça va continuer à diminuer.
C'est-à-dire moins d'un enfant par... On pourrait passer à moins d'un enfant par femme?
En France, non, je pense pas, ça va prendre... Non.
On est aujourd'hui à 1,6.
1,6, hein. Mais si on passe à 1,5, 1,4, 1,3, vous voyez, l'Espagne est à 1,1, la Pologne est à 1, l'Italie, ça change tout, hein. Donc, et tout ça...
Ça change tout, mais sauf qu'on n'en a pas tiré les conséquences. C'est-à-dire que concrètement, notre modèle social continue à prétendre qu'il peut tenir sur une pyramide qui avait encore une forme de pyramide, alors qu'elle est en train de se transformer, cette pyramide, elle a le sommet en bas, quoi.
Oui, c'est ce qu'on appelle ça. Ça prend une forme de cercueil, ce qui n'est pas hyper joli.
Non, c'est pas très joli de le dire comme ça, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Alors effectivement, le modèle social français est vraiment sous tension parce qu'il est très dépendant de la démographie. De ce point de vue-là, plus de personnes âgées, moins d'enfants, moins d'actifs, ça fait moins de recettes, plus de dépenses et moins d'innovation. Donc pour l'économie, c'est pas du tout une bonne équation et c'est pas soutenable.
Quelles sont les solutions? Travailler plus longtemps? Travailler plus?
Travailler plus.
Ou alors renoncer à ce modèle social. C'est-à-dire que ça aurait pu être aussi une option.
Alors,
de dire on n'a pas les moyens, on le fait plus.
En fait, par exemple, la Cour des comptes dit attention, c'est terrible, en 2070, on va avoir 30% de plus de 65 ans. Le Japon, ils sont à 30% aujourd'hui. Le Japon n'a pas vraiment de problème de financement parce qu'ils ont un système très différent. Donc les solutions économiques existent. Effectivement, il faut probablement partir à la retraite plus tard, faire en sorte que il y a un taux d'emploi supérieur, c'est-à-dire que notamment les plus âgés, les 55, 60, 60, 65, 65, 70 travaillent davantage, ça c'est certain. Il y a un gros effort de pédagogie pour expliquer à la jeune génération qu'en fait c'est dans son intérêt que l'âge de la retraite augmente, parce que sinon elle va passer sa vie à cotiser pour des personnes âgées de plus en plus nombreuses.
On part à quel âge à la retraite au Japon?
L'âge effectif c'est 71 ans.
71 ans.
Voilà. Et on vit 85 ans. En France, on vit 83 ans, mais on part à la retraite effective, c'est vers 62, 63 ans. Donc c'est en France qu'on vit le plus longtemps à la retraite.
On avait Emmanuel Macron qui avait lancé un très grand réarmement démographique, un plan de réarmement démographique avec un plan fertilité. C'était il y a 2 ans. Est-ce que ces grandes annonces ont été transformées en quelques faits que ce soit?
Alors, Il y a plein de choses dans ce que vous dites. D'abord, les annonces étaient des annonces un peu politiciennes, un peu malheureuses. Le mot réarmement est malheureux. Ensuite, ce que peut faire le politique, c'est pas évident. Il peut agir du côté des retraites, ça c'est important, mais pour faire augmenter le nombre de naissances, ça c'est très compliqué. Et on le voit parce que tous les pays du monde quasiment sont confrontés à ce problème. En tous les cas, 2/3 des pays font pas assez d'enfants pour renouveler leur population. 2/3. Et 25% des pays perdent de la population.
Mais le plan fertilité, par exemple.
Le plan fertilité, c'est une chose, mais par exemple, il y a cette idée de congé de naissance. Ça, qui permettrait une entrée plus facile des hommes dans la parentalité, qui leur ferait faire plus de parts de boulot. Ça, c'est essentiel. Alors, c'est pas encore mis en œuvre.
Ce serait en œuvre au 1er janvier 2027. Tout ça met un temps fou.
Ah, c'est vrai que c'est long. Moi, je suis très sensible à aussi l'importance de la technologie sur les comportements des jeunes et donc on le voit sur leur sociabilité aujourd'hui et sur leur sexualité et leur fécondité
demain.
Parce
que quand même à un moment ou à un autre, s'il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas d'enfant.
Voilà.
Et faut quand même dire
les
choses.
On sait que l'écosystème numérique est extrêmement délétère et donc les jeunes qui ont grandi avec ça et qui n'ont pas commencé à faire leurs enfants vont sans doute en faire beaucoup moins. Et on voit qu'il y a certains gouvernements qui se saisissent de cette question. Par exemple, l'Australie vient de dire pas de réseaux sociaux avant 16 ans. Ça va être
je n'aurais jamais imaginé le lien de causalité entre l'interdiction.
C'est énorme.
C'est énorme.
C'est énorme. Par exemple, l'INED a sorti une étude là, disant le désir d'enfant reste supérieur à 2,1 le nombre d'enfants pour le remplacement, mais pas chez les jeunes. Les jeunes déjà disent on en veut 1,9. Donc ça indique qu'ils vont en avoir vraiment pas beaucoup. Et quand on leur demande mais pourquoi, ils disent l'anxiété. Anxiété géopolitique, économique, climatique. On comprend bien ce qu'ils veulent dire. Mais derrière ça, il y a l'anxiété technologique, c'est-à-dire que le mode d'information des jeunes, c'est le téléphone portable, et le téléphone portable, les réseaux sociaux, c'est une machine à choper votre attention en vous rendant anxieux et en vous rendant
en colère. En fait, on a intérêt à ce que vous soyez anxieux, parce que plus vous êtes anxieux, plus vous allez aller chercher effectivement du contenu extrême.
Et c'est monétisé. Directement.
En fait, c'est capitaliste presque.
Exactement. Or, ce qui se passe maintenant, c'est qu'un garçon de 13 ans qui ouvre un compte TikTok, il lui faut 10 minutes pour avoir du contenu masculiniste. Et une jeune femme, elle va avoir du contenu progressiste. Et donc, ce qui est maintenant de plus en plus difficile, c'est la concorde dans le cercle hétérosexuel, qui reste très dominant, entre jeunes hommes et jeunes femmes. Moi, dans mes classes, tous mes étudiants, j'enseigne aux étrangers, tous mes étudiants me disent, ça devient très compliqué entre jeunes hommes et jeunes femmes. J'ai une classe en ce moment à Sciences Po de démographie, entre 40 et 50% de ma classe a dit, nous, on ne veut pas d'enfants. C'est gigantesque. 40 ou 50. Alors, ils peuvent changer d'avis, ils sont pas représentatifs de leur pays d'origine, ils sont plus riches, plus privilégiés, tout. Mais ils ont tout pour eux, et pourtant, ils disent, a priori, pour moi, pas d'enfants. Donc, je pense qu'on est à la veille d'un changement sociétal énorme. Et donc, ce 1,6 sur lequel on se lamente, on va vite le regretter, je le crains.
Et donc, il faudra prendre forcément des décisions économiques assez radicales. Merci beaucoup, David Duhamel. Vous êtes économiste, auteur de ce livre, Un monde sans enfants, aux éditions Buchet-Chastel. Je poserai aussi la question tout à l'heure à la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, parce que c'est aussi l'un des symptômes de la politique, avoir fait des grandes annonces, avoir très peu de réalisations concrètes sur cette question de la démographie également. Il est 7h50 sur RMC et dans un instant, Louis Sarkozy va réagir à ce constat, le code de la route, c'est en train de devenir optionnel, Louis.
Oui, bonjour Apolline, ça risque de vous surprendre, mais je plaide pour une immense simplification de la signalisation. Supprimons les feux rouges et les lignes blanches.
Ah oui, il va falloir que vous m'expliquiez. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Mathieu, juste avant de retrouver Louis Sarkozy, vous nous parlez de cette étude sur l'espérance de vie des chanteurs.
Oui, une étude qui s'adresse aux chanteurs, aux artistes en quête de célébrité. Une étude allemande qui nous apprend que les chanteurs devenus très connus ont un risque de décès prématuré plus important que des musiciens moins connus. Et dans la minute qui vient, c'est rare de le préciser, Apolline, vous n'entendrez que des artistes morts. Les célébrités meurent 4 à 5 ans plus tôt en moyenne. Ce n'est pas la musique qui joue, évidemment. Ce serait même plutôt bon pour la santé, mais le sur-risque viendrait bien de la notoriété. Pression médiatique, stress, perte totale de vie privée. On meurt moins tôt aussi quand on joue dans un groupe. Les groupes, c'est mieux que les carrières solo. Il faut aussi ajouter les modes de vie. Évidemment, les stars du rock ont pu avoir quelques comportements à risque ou quelques épisodes dépressifs. Les spécialistes comparent l'impact potentiel de la célébrité à celui du tabagisme, ce qui relativise un peu la supposée vie dorée associée à la notoriété.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Et c'est la voix de droite ce matin avec vous, Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour
plus
Apolline.
Personne ne respecte le code de la route. Une étude de la Fondation Vinci Autoroute que l'on vous révèle ce matin montre que 70% des piétons et 40% des cyclistes traversent au feu rouge, que 58% des automobilistes n'utilisent pas leur clignotant. Et ça vous fait réagir, Louis.
Oui, la solution ici comme ailleurs, Apolline, c'est plus et pas moins de liberté. Ce qui tue les automobilistes, c'est l'assistanat. Je plaide pour une immense simplification de nos routes, supprimer les feux rouges, les lignes blanches, les panneaux de signalisation. En bref, rendre le citoyen responsable de sa propre conduite au lieu qu'il la délègue intégralement au code de la route.
Non mais attendez, ça va être la jungle, Louis Sarkozy. Vous soutenez vraiment la suppression de toute signalisation?
Du moins, Apolline, sa grosse et sa simple simplification. Ce concept s'appelle les Naked Roads, les routes nues, inventées par l'ingénieur néerlandais Hans Mondermann. L'idée est très simple. Regardez l'enquête que vous avez citée. 95% des usagers de la route ont peur du comportement des autres. Les routes nues utilisent précisément cette peur. Quand il n'y a ni trottoir, ni feu rouge, ni ligne blanche, tout le monde fait davantage attention. Les citoyens se responsabilisent et s'installe alors ce que les chercheurs appellent une négociation implicite entre usagers. Ils deviennent deux, voire trois fois plus prudents.
Ça a déjà été testé en conditions réelles, je veux dire?
Oui, oui, et les résultats sont parfaitement stupéfiants. Dans sa ville pilote de Drachten aux Pays-Bas, on a constaté une réduction de 40% des accidents de la route. Le carrefour principal est passé de 8 accidents graves par an à un seul. À Londres, figurez-vous, sur Kensington High Street, la simplification de la signalisation a mené une baisse de 44% des accidents en 3 ans. Et la ville allemande de Bomteil aussi réduit de moitié ses accidents annuels. Les conclusions sont tout simplement frappantes. Quand vous responsabilisez les gens, ils deviennent naturellement plus lents, plus attentifs et plus généreux entre eux.
Alors j'imagine quand même qu'il y a aussi des mauvais côtés, non, à ces naked roads, comme vous dites.
Oui, eh bien, il semblerait que le seul véritable problème, comme vous le dites, c'est qu'elle fonctionne moins bien pour les personnes âgées et les personnes malvoyantes. Mais c'est à peu près tout. Notons que la fluidité du trafic n'est pas affectée par ces réformes. Et d'ailleurs, la vitesse moyenne baisse malgré l'absence de limitation explicite. C'est exactement l'inverse de l'autoritarisme bureaucratique parisien. On augmente la liberté et on observe une amélioration du comportement.
Est-ce que vous plaidez pour qu'on implante ça en France, pour de vrai, je veux dire?
Oui, pour de vrai, absolument, au moins dans des zones d'essai. Commençons petit et voyons ce que cela donne. Mais je suis déjà convaincu du résultat. Quand vous faites confiance aux Français, quand vous les traitez comme des adultes et des êtres libres, ils vous renvoient cette confiance et davantage encore, les individus sont les meilleurs garants de leur propre sûreté.
Meilleur que l'État, que les étatistes, vous voulez dire?
Là, vous avez parfaitement raison. De tous bords, ce sont eux mes véritables adversaires, à gauche comme à droite, ceux qui étouffrent notre pays. Ce ne sont pas les Français ni leur liberté, ce sont ces petits bolcheviks gris qui régulent, réglementent, interdisent et répriment en continu la liberté, Apolline, avant tout. Et vous verrez, elle construit, elle élève et elle est aussi sa propre récompense.
Merci Louis Sarkozy. Pour améliorer la sécurité routière, eh ben, simplifions, voire supprimons la signalisation. Proposition très osée ce matin de Louis Sarkozy, la voix de droite d'RMC. Demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Dans un instant, le journal de 8h. Et c'est une information à RMC, le dispositif. Un médecin près de chez vous, vous vous souvenez? Grande promesse, tout petit effet, voire même pas d'effet du tout, parce que voilà, ça fait 3 mois et ça fait flop. Il n'y a que 250 médecins volontaires aujourd'hui dans toute la France. Reportage dès le début du journal. Du côté de la météo, vous allez voir, c'est assez gris. Et juste après le journal, il y aura aussi Emmanuel Le Chypre, l'économie. Emmanuel, le conseil des prélèvements obligatoires veut taxer l'épargne des Français, manquait plus que ça.
Oui, parce que les Français, ils peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire avoir une épargne non risquée, qui rapporte et qui est peu taxée.
Merci Emmanuel, vous nous le dites dans un instant, 7h56, n'oubliez pas, vous pouvez toujours envoyer Noël au 7-32-16 et on vous couvre de cadeaux. Noël au 7-32-16 pour ouvrir le calendrier de l'Avent. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans une poignée de secondes, il sera 7h et vous êtes bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le flop du gouvernement, du plan du gouvernement contre les déserts médicaux. Vous vous souvenez des annonces, c'était au printemps, le gouvernement avait fait de grandes annonces pour inciter les médecins à aller dépanner à la campagne. Eh bien c'est une info RMC ce matin, seulement 250 généralistes se sont portés volontaires. Question ce matin, l'Algérie va-t-elle libérer le journaliste français Christophe Glaise, condamné à de la prison depuis cet été? C'est aujourd'hui qu'il sera jugé. Et la police, carrément déployée ce matin à Nice pour la reprise de l'entraînement du club de foot après les incidents de dimanche.
Et encore une fois, c'était des grandes annonces et elles n'ont pas été suivies d'effet.
Oui, souvenez-vous de ce que voulait faire le gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux. C'était au mois d'avril. Le Premier ministre à l'époque, c'était François Bayrou.
Ainsi, chaque médecin généraliste ou spécialiste qui exerce dans un territoire bien pourvu devra consacrer 1 ou 2 jours par semaine à des consultations dans les zones qui sont les plus en difficulté, que nous appelons les zones rouges.
Eh bien Solène Leroux, vous avez enquêté pour RMC, on est 7 mois après la grande annonce de ce dispositif. C'est une info RMC, donc ce matin, il y a seulement 250 médecins qui se sont portés volontaires, c'est pas beaucoup. Pourquoi ça marche pas?
Il y a en fait pas mal de freins techniques déjà. Chaque médecin doit pouvoir se connecter au dossier médical partagé pour que le suivi du patient soit assuré. Et même ces blocages sont de moins en moins, même si ces blocages sont de moins en moins nombreux, nous dit le ministère de la Santé, ce n'est pas encore ça. L'accessibilité de la commune joue aussi. Écoutez, Jérémy Brigand, il est président d'une communauté de communes à 1 heure de Dijon.
Chez nous, on n'a pas de train, on n'a pas d'autoroute. Donc ça veut dire qu'il y a 1 heure de route à faire le matin et le soir. Ça correspond à 2 heures de consultation en moins. Et les 200 euros offerts par l'État ne couvrent même pas les 7 consultations que le médecin ne peut pas assurer.
Résultat, aucun médecin ne s'est porté volontaire là-bas pour le moment. L'élu le comprend, d'autant plus que pendant ce temps, qui va soigner la patientèle habituelle des généralistes? Et puis, dans certaines zones, ce sont finalement les patients qui manquent, pas parce qu'ils n'ont pas besoin de praticiens, non, plutôt parce que la prise de rendez-vous est complexe, ou alors tout simplement parce qu'ils ne sont pas au courant du dispositif. Un médecin près de chez vous compte bien renforcer son déploiement au fur et à mesure, même s'il n'y a aucun objectif chiffré par le ministère.
Enquête et information RMC signée ce matin, Solène Leroux, en plein débat budgétaire au Parlement, celui de la Sécu est de retour à l'Assemblée depuis hier. Le temps presse et pourtant la coalition gouvernementale se fissure puisque les députés Horizon d'Edouard Philippe préviennent qu'ils ne le voteront pas ce texte en l'état. Et maintenant, que va-t-il se passer concernant le sort de la guerre en Ukraine? Américains et Russes n'ont pas réussi à s'entendre hier et même cette nuit sur le fameux plan de paix. Il y avait des discussions à Moscou en présence de Vladimir Poutine, plan qui a été modifié ces derniers jours. C'est la question des territoires en Ukraine qui pose problème.
problème. Antoine Hollard, vous êtes aux États-Unis pour RMC. Le ping-pong continue donc, puisque désormais les Américains sont censés discuter avec les Ukrainiens.
Écoutez, les émissaires de Donald Trump doivent rencontrer Volodymyr Zelensky aujourd'hui pour lui faire un compte-rendu de leur réunion au Kremlin. Une réunion qui a duré 5 heures et qui n'a pas permis de régler les sujets les plus sensibles, et notamment les concessions territoriales. Poutine n'est pas prêt à transiger. Il exige toujours l'annexion complète du Donbass, y compris les zones que son armée ne contrôle pas. Alors la question désormais, c'est de savoir si les Américains vont accentuer la pression sur le président ukrainien pour le forcer à faire des compromis. Trump, en tout cas, de son côté, semble un peu lassé par ces discussions qui n'avancent pas vraiment. Il est silencieux sur l'Ukraine depuis hier soir. Il n'a manifestement plus envie de s'impliquer directement. Il laisse la main à ses émissaires, ce qui lui permettra de s'attribuer le mérite d'un éventuel succès, tout en évitant d'être en première ligne en cas d'échec.
C'est un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. Vous vous souvenez certainement de la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines, le fameux vol MH370, il y a 11 ans. Eh bien, la Malaisie annonce ce matin que les recherches vont reprendre à la fin du mois. C'est aujourd'hui que doit être jugé en Algérie le journaliste français Christophe Glaize, journaliste condamné fin juin à 7 ans de prison en Algérie pour apologie du terrorisme et propagande nuisant à l'intérêt national. C'était dans le cadre d'un reportage, mais Cassandre Brault, dans la foulée de l'affaire Sansal, vous nous dites que ses proches ont bon espoir.
Oui, surtout après la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, même si l'avocat de Christophe Glaize précise que les deux affaires n'ont rien à voir. C'est un signal positif pour ses soutiens qui espèrent l'acquittement du journaliste. Thibaut Brutin est le directeur de Reporters sans frontières.
La communauté des gens qui est mobilisée pour Christophe, elle est vraiment confiante, tout en étant très prudente. Et je crois que pour nous, là, le rapprochement qui est désormais peut-être possible entre la France et l'Algérie, du moins on peut le souhaiter, laisse imaginer qu'il peut y avoir une issue rapide, favorable à Christophe Glaize.
La justice algérienne reproche à Christophe Glaize d'avoir été en contact avec un dirigeant d'un club de foot, un homme par ailleurs responsable dans une organisation classée terroriste par les autorités algériennes. Dans ce procès en appel, les avocats de Christophe Glaize veulent démontrer le caractère professionnel de la démarche du journaliste français et que cette rencontre a été effectuée dans le cadre d'un reportage.
C'est l'avenir de Brandt qui va se jouer aujourd'hui au tribunal de Nanterre, un des derniers grands fabricants d'électroménagers en France, placé en redressement judiciaire début octobre. Le gouvernement et les élus locaux multiplient les soutiens ces derniers jours au projet de SCOP, la reprise par les salariés, comme Duralex en fait l'année dernière, qui permettrait de sauver 300 des 700 emplois et les deux usines près de Vendôme et Orléans. Il y aura du changement au 1er janvier sur la route. Vous allez certainement voir apparaître des plaques d'immatriculation de couleur rose. Ce sera pour mieux identifier les voitures qui ont des plaques temporaires et c'est pour lutter en fait contre la fraude à l'immatriculation à Lougarnier.
Oui, des plaques roses pour faciliter le travail des forces de l'ordre en les rendant plus visibles dans le flot de la circulation. L'objectif, c'est de mieux contrôler la période de validité de ces plaques temporaires car certains continuent de rouler avec. Et s'ils prennent une amende, c'est le conducteur à qui ce même numéro de plaque a été attribué qui recevra la contravention. Alors en plus du rose pour attirer l'attention, le mois et l'année d'expiration de la plaque provisoire seront visibles sur la droite à la place de la région et du département. L'immatriculation provisoire concerne plus de 400 000 véhicules par notamment les véhicules neufs avant immatriculation définitive ou des véhicules achetés à l'étranger en attente d'une immatriculation française.
La saison de Formule 1 n'est toujours pas terminée, qu'on pense déjà à la prochaine avec la promotion du français Isaac Hadjar qui sera au volant d'une Red Bull l'année prochaine. Il va devenir en fait le coéquipier du néerlandais Max Verstappen, lui qui était jusque-là dans l'écurie parallèle Racing Bull, à seulement 21 ans et une seule saison en Formule 1. Rendez-vous compte, la police sera carrément déployée aujourd'hui à Nice pour la reprise de l'entraînement du club de foot. Après les incidents de dimanche, des joueurs frappés, le club qui est en pleine crise, l'entraîneur doit même annoncer son départ. Bref, reprise sous haute tension, Maxime Tillette.
Oui, deux joueurs vont manquer à l'appel, Jérémy Boga et Terem Moffi, en arrêt de travail après les coups reçus dans la nuit de dimanche à lundi. Une enquête pour violences aggravées a été ouverte par le parquet de Nice après leur plainte et celle de leur club. Ils ne veulent plus porter les couleurs niçoises et selon nos informations, l'entraîneur Francaise devrait lui annoncer ce matin son départ au groupe. Le directeur du centre de formation, Julien Sablé, assurerait l'intérim. Une réunion doit se tenir entre le staff, les dirigeants et les joueurs avant de retrouver les terrains en fin de matinée. Et certains d'entre eux, choqués, espèrent trouver une porte de sortie lors du mercato d'ici un mois. Ils pointent du doigt le dispositif de sécurité et le manque d'anticipation de leurs dirigeants. Autre conséquence, dès ce matin, la police nationale sera en renfort sur le boulevard qui jouxte le centre d'entraînement pour sécuriser l'arrivée des joueurs.
puis tirage au sort dans la matinée 10h des groupes de la Coupe du Monde de rugby 2027. Avec 2 ans d'avance, on fait jamais comme les autres en rugby. La France est dans le groupe des favoris. On va donc s'éviter les grosses nations, mais il y a quand même un risque de tomber sur l'Australie, l'Écosse ou les Fidji.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Économie et épargne, Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, l'épargne sans risque sur le livret A ou l'assurance vie va être davantage taxée.
Elle devrait être davantage taxée. C'est vraiment à la sulfateuse que le Conseil des prélèvements obligatoires, qui est une émanation de la Cour des comptes, propose donc de dépoussiérer les habitudes d'épargne des Français en partant d'un constat. Ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Autrement dit, ils ne peuvent pas, comme c'est le cas aujourd'hui, bénéficier d'une multitude de dérogations et d'abattements fiscaux, sans lesquels ils paieraient quand même 2 fois plus d'impôts et de taxes sur leur épargne, et en même temps placer de gros montants qui leur apportent sans le moindre risque sur le livret A ou sur l'assurance vie, par exemple.
Alors à quelle sauce les petits épargnants vont être ponctionnés ?
Alors le Conseil des prélèvements obligatoires suggère d'abaisser d'abord les plafonds de l'épargne réglementée. Vous savez que le plafond sur le livret A aujourd'hui, c'est 22 950 euros, 15 300 pour un livret de développement durable. Ils disent, c'est trop, il faudrait abaisser ces plafonds pour limiter cette épargne à la seule épargne de précaution, celle qu'on doit pouvoir mobiliser en cas de coup dur. Mais ils veulent aussi soumettre à l'impôt les intérêts qui dépassent ces plafonds. C'est-à-dire que quand vous êtes au plafond et que vous accumulez des intérêts chaque année, bah votre compte, votre livret A, il augmente, mais cette épargne-là, elle est toujours pas taxé. Il y a quand même plus de 7,5 millions de livrets A qui sont au taquet sur 58. Et puis même coup de rabot en vue sur l'assurance vie, fiscalement très avantageuse, surtout en cas de succession. Plus largement, tous les revenus du patrimoine seraient réintégrés dans votre revenu fiscal de référence, dépouillés de leur fiscalité avantageuse.
Le ministre de l'économie, Roland Lescure, a dit pas question de toucher au livret A.
Oui, bah, on comprend.
J'aimerais bien comprendre.
Bah, c'est-à-dire que Roland Lescure, vous comprenez bien que dans la période actuelle, il va pas ouvrir un dossier.
C'est pas comme s'il y avait pas
explosif que celui du livret A. Il n'empêche qu'il a tort, parce que en économie, ce qui est bon pour un ménage ne l'est pas forcément pour un pays. Jamais les Français n'ont autant épargné. Ils sont les plus gros épargnants d'Europe. Et pourtant, ils sont ceux qui investissent le moins dans les entreprises, dans l'innovation. Financer le logement social ou la dette de l'État, c'est bien, mais financer la croissance de demain, c'est encore mieux. Bref, on dit que les Français ne travaillent pas assez. C'est aussi vrai pour leur épargne.
Merci Emmanuel Le Chypre, 8h10. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et dans un instant, c'est Arnaud Demange qui nous rejoint. À 8h30, le face-à-face, ce sera la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Aurons-nous un budget pour Noël? Et puis juste après, c'est Nicolas Canteloup et ses imitations, bien sûr, face à Canteloup. C'est tous les jours à 8h50 sur RMC. Pour l'heure, il est 8h10. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h14 et c'est tous les jours notre Arnaud de Manche National. Salut Arnaud.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Ça va bien?
Ouais.
C'est le 3 décembre. Alors c'est le 3e jour du calendrier de l'Avent, du LOL. Chaque jour une nouvelle blague pour bien démarrer la journée. Ah. Aujourd'hui Apolline, c'est une devinette. Attention. Qu'est-ce qui fait toin-toin?
Un canard.
Un tanard.
Ah,
ben voilà. Vous savez que Pierre Desproges nous regarde de là-haut. Il est consterné.
Il est remords.
Il est mort une deuxième fois. Mais faut rigoler parce que l'actualité n'est pas drôle, Apolline. Non. Rendez-vous compte, François Hollande a été cambriolé.
Oui.
François Hollande et Julie Gayet, nos Brad Pitt et Angelina Français à nous. Notre couple Galamour, c'est nos Kennedy et Marilyn de chez Shein. Alors là où c'est con, c'est que sa résidence, comme celle de tous les anciens présidents, est surveillée par la police 24 heures sur 24, sauf que la présence des policiers gênait les voisins. Du coup, les policiers avaient été déplacés à 300 mètres de la maison.
Ouais.
Effectivement, c'est moins pratique, c'est pour moins surveiller genre ce qui se passe. Par contre, le voisin du bout de la rue, lui, il n'a pas été cambriolé. Comme quoi, c'est efficace. Qu'est-ce que tu veux piquer à François Hollande? Ses idées, pouf. Ses fringues. Qui va voler les fringues de François Hollande? Xavier Bertrand, mais à part ça. Sinon, il y a la bouffe.
Tu voles le contenu.
Sinon, il y a la bouffe.
Ouais,
Hollande, il est rentré chez lui, il fait « Oh les salauds, ils ont volé le restant de pâté. » Non, non, chouchou, tu l'as mangé hier soir. Ah oui, c'est vrai. Pardon. C'est vrai. Alors, j'ai un copain caméraman qui m'a dit hier, je vous raconte une histoire vraie, hein, c'est une vraie anecdote. Il m'a dit, j'ai retourné un reportage chez François Hollande. Il y a quand même un truc précieux chez lui. Il a tous les départements sur le frigo.
Ah, il a mangé
les aimants, de... ouais, les aimants qu'il y a dans les cordons bleus, il a la collection complète, sachant qu'il y a 101 départements, il a dû bouffer entre 2 et 3 000 cordons bleus, le pauvre. Mais ça valait le coup. Alors, est-ce que les bandits sont repartis avec la collection? Ou alors, plus vicieux, ils sont repartis juste avec le Loir-et-Cher. Ils ont pris un trou pour faire un trou au milieu de la carte. Hollande, il est rentré chez lui, il a fait, oh non, non! Julie, recommande des cordons bleus! Quelle abnégation! C'est ça, un président.
Emmanuel Macron est en Chine pour une visite d'État de 2 jours.
Oui, il va aller à Chengdu où a été transféré le couple de pandas du zoo de Beauval, les pauvres pandas. Ils pensaient être débarrassés de Macron. L'autre, il déboule dans leur enclos. Coucou les pandas! Papa est de retour! Vous m'avez manqué! Non, parce que j'ai fait panda deuxième langue.
Oui, c'est bon, ouais,
ça veut dire, putain, 12 heures d'avion dans une cage en soute pour revoir sa tronche. Si j'étais pas aussi feignant, je l'attaquerais.
C'est,
oui, j'ai
écourté
le panda. Voilà. Emmanuel Macron va sûrement profiter de sa visite d'État pour visiter les usines Chine maintenant qu'on bosse avec. Ça va les enfants? Dites donc, c'est sympa de faire une crèche pour les enfants des ouvriers à l'usine. Bon, c'est pas les enfants des ouvriers, c'est les ouvriers. Hein, vous vous méfierez, il y en a une qui bouge pas. Hein. Non, ça c'est pas une ouvrière, c'est une poupée sexuelle.
Oh,
allez les enfants, on se dépêche de la terminer. Il y a monsieur Matzneff qui attend sa livraison.
Oh.
Ben, c'est beau une économie qui tourne. On va la vendre au BHV.
Arnaud, la chaîne info de la galaxie Bolloré, CNews, a lancé une déclinaison. Ça s'appelle CNews Prime.
Oui, tous les cadres ont fait une réunion chez Vincent Bolloré qui a dit « On va lancer un nouveau CNews. Un CNews 2. Et je serai le maître du monde !» Mais en attendant, je vais me faire des crêpes. Bon, en vrai, il a réuni ses proches dans son manoir breton. Bon, Yann, Erwan, Gwenaël, encore Yann, Swazik, l'autre Yann, Yann numéro 3. Je vous ai rassemblés parce que j'ai une idée. Si on lançait un nouveau CNews.
Super idée, patron. Qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Des vraies infos?
Comment? Qu'est-ce que tu as dit, Yann? Insolent! Qu'on le jette dans l'oubliette des gauchistes! Il rejoindra Laurent Geoffrin. J'ai peur que chez Canal, ils déclinent la marque un peu trop, quoi. Dans 5 ans, on pourra zapper sur CNews Cinéma. Et ce soir, sur CNews Cinéma, un drame, celui d'un homme handicapé et vulnérable, pris en otage par un Malien sans papier. C'est Intouchable et c'est à 21h sur CNews Cinéma. Demain, vous retrouverez l'histoire réjouissante de deux guerriers médiévaux français qui chassent à grands coups d'épée les sarrasins qui infiltrent le service public. Ce sera les visiteurs sur CNews Cinéma. Et vendredi, Louis de Funès et Bourville dans le rôle de deux terroristes antipatriotes qui s'attaquent lâchement à nos amis allemands et au gouvernement légitime du glorieux maréchal qui a sauvé tant de juifs. C'est la grande vadrouille et c'est sur CNews Cinéma. Allez, à demain.
Merci Arnaud. C'est l'heure de jouer et de gagner le calendrier de l'Avent toute la semaine.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Elle
vous
fait peur à chaque fois. Mais oui, on va vers Noël. Elle est là, Maria Carré. Elle est dans ce studio. Il est 8h19 et c'est Alexandre qui a gagné. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour Apolline.
Alexandre, félicitations. Vous criez pas, vous, dis donc. Vous êtes
non,
mollo, mollo.
Hein. Ouais, exactement.
Il attend son cadeau. Alexandre,
exactement.
À Marennes, dans le Rhône. Alors, on est le 3. Donc, on va ouvrir le 3. Attention, Alexandre. Qu'avez-vous donc gagné? Vous avez remporté un MacBook Air.
Allez,
l'ordinateur portable d'Apple, ultra performant. Jouer, travailler, valeur 1100 euros. Félicitations,
super.
Alexandre.
Bah, merci beaucoup.
Oh, ouais,
cadeau.
C'est vraiment une belle surprise.
Et bah, ça fait très plaisir. On va vers Noël. Et c'est déjà un peu Noël sur RMC. Vous avez bien fait d'écouter. Belle journée à vous, Alexandre. Il est 8h20. Alors, on a un calendrier de l'Avent, mais on n'a pas de budget. Et ça, honnêtement, pour la France, c'est pas terrible, terrible. Dans un instant, mon invité, c'est la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Je vais l'interroger sur le budget, puis je vais l'interroger sur toutes ces grandes annonces qui ont eu zéro effet. On parlait ce matin de cette annonce où des médecins allaient sauver le grand plan des médecins. Bah, à la fin des fins, il y a 250 médecins volontaires pour toute la France. Ou alors le grand plan fertilité.
zéro effet concret. Zéro, zéro, zéro. Donc voilà, je lui pose la question dans un instant. Ça promet. Il est 8h20, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h28 et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Maud Bréjon.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes la porte-parole du gouvernement. Ce budget, ce fameux budget, le budget de la France, le budget de la sécurité sociale. Honnêtement, au moment où on se parle, c'est quand même assez mal barré. Il y a peu de chances vraiment qu'on en ait un avant Noël, non ?
Écoutez, moi je constate que la deuxième partie du projet de loi de finances de la sécurité sociale, celle qui porte sur les recettes, a trouvé une majorité à l'Assemblée nationale. Je constate que depuis plusieurs semaines, les députés discutent. Alors oui, c'est long, oui, c'est exigeant, oui, c'est technique, mais sur un certain nombre de sujets, ils arrivent parfois à s'accorder. Nous, vous savez, on a 1049.3 de côté. On s'est engagé à ne pas l'utiliser. Nous ne l'utiliserons pas. Et c'est désormais.
Vous nous redites ce matin.
Oui, je vous redis
que vous n'utiliserez pas le 49.3. Il n'y aura pas de 49.3.
Utiliser le 49.3, ça revient à acter l'échec des discussions parlementaires. On est en train de vivre un moment historique avec un budget extrêmement important, le budget de la sécurité sociale, avec une nécessité absolue de réduire le déficit et de s'accorder pour prendre des mesures sérieuses qui permettent de garantir le maintien de ce système dans la durée. Moi, je veux croire qu'on trouvera une majorité à l'Assemblée nationale pour permettre cela.
Donc, vous préférez pas de budget qu'un 49.3. C'est-à-dire, au risque qu'il n'y ait pas de budget, vous n'utiliserez pas 49.3, c'est sûr.
Voter le budget, c'est pas voter pour ou contre le gouvernement. C'est permettre de réduire le déficit pour l'année prochaine. C'est permettre d'augmenter, par exemple, le budget de l'hôpital. Il y a des mesures dedans extrêmement concrètes, mais pour qu'elles rentrent dans la vie des gens, concrètement, par exemple, la suspension de la réforme des retraites, il faut que les parlementaires votent ce budget.
Donc vous pensez que les socialistes le voteront ?
Il y aurait une incohérence de la part des socialistes à ne pas voter ce budget. Pourquoi ? Parce que dans ce budget,
c'est quand même pas mal de concessions. Donc si ensuite, à la fin, ce serait un grain.
Dans ce budget, il y a la suspension de la réforme des retraites. C'est pas nous qui avons demandé la suspension de la réforme des retraites. Moi, pour ma part, je suis attachée à cette réforme. Je pense qu'elle était nécessaire. On a fait ce compromis, on a fait cette concession au nom de la stabilité. Il serait quand même, pour le moins, curieux, et c'est un euphémisme, que les socialistes ne votent pas ce budget. Pourquoi ? Parce que s'ils ne le votent pas, la suspension de la réforme des retraites ne pourra pas être appliquée, parce que ce budget ne sera pas adopté. Donc, vous comprenez bien qu'on attend, face à ces compromis et face à cette concession, qui était une concession importante, qui était une concession douloureuse, une cohérence dans les votes des uns et des autres.
Ça, c'est les socialistes, vous l'avez vu, du côté du socle commun, enfin je sais même pas, on peut encore parler de socle commun ?
Moi, je continue à parler de socle commun parce que je pense qu'il y a davantage de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent.
Enfin, vous l'avez vu
avec
hier.
Avec Horizon, avec les Républicains, ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble. Qui aurait pu penser ça en 2022 ou 2023 ?
Au moment où on se parle quand même, Maud Bréjon, vous avez d'un côté les socialistes qui vraisemblablement, en tout cas si on vous écoute, s'apprêtent à voter ce budget. Et ceux qui sont censés être les plus proches de vous, c'est-à-dire Horizon, qui ne le voteront pas. Édouard Philippe qui a annoncé hier que les députés Horizon ne voteraient pas le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc ce que vous avez gagné d'un côté, vous l'avez perdu de l'autre.
Édouard Philippe a dit deux choses. D'abord, il y a quelques semaines, il a dit qu'il était convaincu de la nécessité de doter la France d'un budget. Je suis convaincue que c'est encore le cas aujourd'hui. Il a effectivement, semble-t-il, dit hier qu'en l'état, il ne pouvait pas le voter. Il nous reste plusieurs jours de discussion. Il reste, je crois, environ 50 heures de débat à l'Assemblée nationale sur le budget de la sécurité sociale. Et donc, nous verrons. On sait qu'il y a, par exemple, un sujet auquel Édouard Philippe est très attaché, c'est la question du déficit. Eh bien, la différence entre voter le PLFSS et ne pas voter le PLFSS, c'est 10 milliards de déficit supplémentaires. Nous, on a un objectif de déficit à 20 milliards. Dans ce projet de loi, c'est déjà beaucoup. Si on ne vote pas ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, le déficit s'élèvera à 30 milliards. Ça signifie qu'en deux ans, on aurait doublé le déficit de la sécurité sociale. Qui pourrait aujourd'hui avoir confiance dans un système qui reposerait essentiellement sur la dette avec un déficit qui partirait complètement dans le décor ? Et donc moi je dis aux députés aujourd'hui, aux députés Horizon, aux députés LR, aux députés socialistes, à l'ensemble des parlementaires et des 577 députés qui composent l'Assemblée nationale, nous avons une responsabilité majeure. La différence entre le vote du budget et l'absence de vote, c'est 10 milliards de déficit supplémentaire. Le vote de mardi prochain, c'est un vote à 10 milliards.
c'est un vote à 10 milliards. Mais quand je vous écoute, je ne sais pas si vous êtes dans le déni ou dans la méthode Coué. Ou un peu des deux.
Moi, je vois les débats à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas à être optimiste ou pessimiste.
Je vous demande juste d'être réaliste.
Notre rôle, on l'est depuis le départ, c'est d'éclairer les débats, c'est de faciliter les discussions, c'est de faciliter le compromis. Parfois, ça marche, parfois, c'est difficile, et on le sait. Mais enfin, pardonnez-moi, quand on dit ça, on se parle un peu à nous-mêmes. Moi, je rentre dans ma circonscription tous les week-ends. J'entends des gens qui nous demandent de nous accorder. J'entends des Français qui ne veulent pas retourner dans une crise politique. J'entends des Français qui veulent passer les fêtes de Noël, pouvoir se projeter vers des perspectives nouvelles l'année prochaine. Pas de nouveau revenir en janvier avec des discussions budgétaires qui seraient interminables.
Est-ce que vous vous préparez à une possible motion de censure? Est-ce que ce scénario, vous commencez à y travailler?
Vous savez, nous, on est dans la main, si je puis dire, des 577 députés qui composent l'Assemblée nationale, et on le sait depuis le départ. Il y a eu une motion de censure étudiée il y a quelques semaines de ça, elle a été rejetée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une majorité absolue de députés à l'Assemblée nationale qui refusaient le désordre et qui voulaient que le débat puisse se tenir. Nous avons avancé depuis, je pense que c'est toujours le cas.
Vous espérez que c'est toujours le cas? Il y a un point qui devait être discuté, j'arrive pas très bien à savoir si finalement il sera à l'ordre du jour ou pas, c'est la question de la CSG sur les revenus du patrimoine. Voilà un point auquel sont très attachés les socialistes et dont ne veulent pas entendre parler les LR et Horizon. Vous allez trancher en quelle faveur?
Les socialistes y sont attachés moins philosophiquement que pour une logique de rendement. Dit autrement, il faut bien qu'il y ait de l'argent dans la partie recettes qui entre pour pouvoir compenser certaines dépenses. On sait que le groupe Horizon, que le groupe LR, ils sont extrêmement défavorables. Nous, on n'est pas particulièrement attachés à cette mesure. Ce qu'on dit, c'est que si on la retire et si on la modifie, il faut qu'on puisse compenser en face. Pour reprendre cette expression que j'aime bien de mon collègue Roland Lescure, face à chaque plus, il faut un moins, et face à chaque moins, il faut un plus.
Donc là, c'est simple, vous pouvez le trouver.
C'est assez simple à comprendre. Nous, on est ouverts, encore une fois, à la discussion et sur l'ensemble des mesures.
Donc vous n'êtes pas favorable personnellement à la CSG sur les revenus du patrimoine.
Ce qu'on dit,
vous pouvez y échapper.
Ce qu'on dit, c'est que si on retire cette mesure-là, il en faut une autre pour compenser en face, parce que si ce n'est pas le cas, on laisse filer le déficit.
Avez-vous des pistes?
On en discutera durant la discussion parlementaire. Il y a par exemple un sujet qu'il faut regarder en face et avoir la lucidité d'aborder de façon courageuse, c'est la question du gel des retraites. On a proposé, en entrée de match, si je puis dire, il y a quelques semaines, un gel complet. Vous vous souvenez, c'était l'année blanche. L'Assemblée nationale a fait le choix de revenir entièrement sur cette mesure et de dégeler l'intégralité des retraites. Le Sénat a proposé il y a deux semaines un entre-deux qui me semble intéressant, en disant on gèle une partie des retraites, celles qui sont supérieures à 1 400 euros, et une partie des minima sociaux. Laurent Wauquiez, l'année dernière, avait mis la barre à 1 700 euros. Voilà des discussions intéressantes.
Vous avez l'air de dire que c'est une piste possible.
C'est une piste possible, évidemment, mais on l'a déjà dit.
Et pourquoi les socialistes seraient OK?
Et pourquoi
les socialistes seraient OK?
Vous leur demanderez, on verra pendant les débats. Mais enfin, quand on est attaché à la justice fiscale et sociale, on ne peut pas demander aux actifs de supporter seuls l'effort qui sera demandé l'année prochaine. Que les retraités, ceux qui le peuvent, contribuent également, ça me semble au fond là aussi une forme de justice.
Taxer davantage l'épargne, même le livret A, le Haut Conseil aux revenus et aux prélèvements le recommande. Est-ce que ça pourrait aussi faire partie des taxes qui vont commencer à apparaître?
Le livret A, on parle de l'épargne, encore une fois, des classes moyennes, que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont. Notre priorité, c'est pas de mettre à contribution, encore une fois, les classes moyennes et les classes populaires. Notre priorité, c'est de demander à ceux qui le peuvent le plus de contribuer à hauteur de leurs moyens et, en parallèle, de réduire les dépenses. Et là encore, pardonnez-moi, je reviens sur le budget de la sécurité sociale. La question des franchises médicales, on est seul à les défendre aujourd'hui. Mais moi, je le redis, le tout gratuit pour tous en matière de santé n'est ni possible ni tenable.
Je vais revenir dans un instant sur les questions de santé, sur les questions de médecins.
Qu'on arrive à trouver un point d'atterrissage équilibré.
Et sur les questions très concrètes de médecins, de natalité, voir si à un moment ou à un autre, la politique a des effets concrets. Mais à l'instant, Bruno Retailleau appelle Sébastien Lecornu, je cite, à assumer le 49-3.
C'est un peu facile. Pourquoi est-ce que nous aurions peur du débat parlementaire? Bruno Retailleau a des députés, il est président du groupe LR. Et je le dis avec toute l'amitié que j'ai pour lui. Il a été mon collègue au gouvernement. Le groupe Les Républicains, mené par Laurent Wauquiez aujourd'hui, voilà, s'investit dans les débats. S'investit dans les débats. Propose des amendements, prend des positions politiques. Je pense que c'est extrêmement ça. Et donc il faut laisser le débat se tenir. Je suis moi convaincue que les députés Les Républicains ont envie aussi de pouvoir s'exprimer devant les Français de par leur vote.
Donc au fond, plutôt que le 49-3, qu'ils le votent ce budget quoi.
Bien sûr. Et donc nous irons au vote au bout. Ce sera mardi 9 décembre. Ce sera une journée importante et les uns et les autres pourront prendre position. Puis les Français regarderont qui a choisi la réduction du déficit et qui a refusé d'avancer vers un budget.
Vous disiez à l'instant, Maud Bréjon, qu'il fallait quand même qu'à un moment ou à un autre, les décisions politiques puissent se transformer en faits concrets pour les Français. Ce matin, la Cour des comptes alerte sur la dénatalité et sur ses conséquences. Ils disent qu'au fond, parce qu'on ne fait pas assez de bébés, soit il faut qu'on renonce à notre modèle social, soit il faudra qu'on paye davantage, qu'on travaille davantage. Et j'ai regardé cette histoire de réarmement démographique. Vous vous souvenez de cette fameuse expression d'Emmanuel Macron, grand discours, en janvier 2024, ça va faire 2 ans et depuis, rien. Mais quand je dis rien, c'est-à-dire rien du tout. J'ai regardé tout le déroulé de ces annonces, c'est le symptôme de cette politique qui ne se transforme en aucun fait. Il y avait un rapport qui a été demandé en 2022 sur les raisons de la dénatalité. Ce rapport a été remis en 2023. Le grand discours d'Emmanuel Macron, il a été prononcé en 2024. On est bientôt en 2026 et rien de tout cela n'est devenu concret. Quand je dis rien, c'est-à-dire par exemple le plan fertilité, ça n'est qu'un mot, il n'y a rien de concret. Les pistes, elles sont encore étudiées au moment où on se parle par la Haute Autorité de Santé. C'est-à-dire des grands mots, des grandes promesses, aucune traduction concrète.
Alors, on est sur un sujet qui est extrêmement complexe et qui nécessite, à mon avis, de sortir des caricatures. Quand on essaie de comprendre les raisons de la baisse de la natalité, on voit que d'abord, elles sont extrêmement plurielles et elles dépendent de la classe sociale dans laquelle vous vivez, du lieu géographique dans lequel vous évoluez.
Mais Maud Bréjon, c'est pas ça que je vous dis.
Ce que je veux dire,
sur le nombre de bébés. Je vous dis juste que les promesses, par exemple, l'accès plus facile pour les familles aux cliniques de fertilité, rien. C'est-à-dire que c'était des mots, il n'y a pas eu une seule mesure.
Ce que moi je vous dis, c'est que sur ce sujet-là, personne ne peut prétendre avoir de baguette magique.
Non, mais quand vous annoncez des mesures, pourquoi vous ne les faites
nous,
pas?
Ni nous, ni les autres. Quand vous dites que rien n'a été fait, c'est faux, c'est un mensonge. Quand par exemple, je vous prends un exemple.
Allez-y.
Qui moi me tient beaucoup à cœur, c'est le passage de 14 à 28 jours du congé paternité. Quand on voit l'évolution des structures familiales, que c'était pas dans le grand plan.
Non.
C'est nous qui l'avons fait.
Oui, vous l'avez fait, mais pas dans ce grand plan. Ce grand plan avait promis, par exemple, un congé.
Et ensuite, vous le savez
long,
bien.
Mais il arrivera peut-être en 2027.
Vous le savez bien. Quand vous soutenez le pouvoir d'achat des Français face aux crises, ça joue. Quand vous travaillez à plus d'écologie, à préserver la planète, et quand vous savez à quel point ça touche les jeunes et ça touche les jeunes femmes aujourd'hui, vous travaillez aussi en ce sens. Quand vous essayez d'avancer sur la question du logement, vous travaillez en ce sens. Quand vous permettez aux femmes de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle, là aussi vous accompagnez les familles.
En fait, ce que
quand
je comprends
portez,
pas, Maud Bréjon,
et je terminerai avec un dernier exemple. Quand vous portez le plan des 1000 premiers jours qu'a fait Adrien Taquet lorsqu'il était au gouvernement, vous accompagnez aussi les parents. Mais personne, je le redis, personne n'a de baguette magique. D'ailleurs, les parlementaires se sont de nouveau saisis de ce sujet. Il y a une mission qui est en cours à l'Assemblée nationale.
Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a une mission alors qu'il y avait déjà un rapport qui a été commandé en 2022 et on refait une mission.
Mais les parlementaires, et c'est leur choix, ils sont souverains. C'est pas
mais
le
non, mais
gouvernement
qui regarde ce rapport,
c'est
quoi, qui a été commandé, qui a été payé, qui a été travaillé.
Les ordres vont mener de nouveau des auditions pour essayer d'avoir de nouvelles propositions. Moi, je vous dis, on a là un sujet. Vous avez raison d'en parler.
Moi, ce qui me désole, c'est que j'ai l'impression de passer ma vie à parler des rapports que vous commandez.
C'est un
sujet. Et en fait, quand on regarde ces rapports, ils restent dans des tiroirs.
Je viens de vous donner un certain nombre d'exemples qui répondent à votre question. Je vous dis que si des choses ont été faites, mais que non, personne n'a de baguette magique. Et on a là. Et je suis personnellement convaincue,
Maud Bréjon, vous n'avez absolument pas répondu à ma question. Moi, je vous parlais des contenus de
sujet,
ce discours.
Un sujet.
De ce discours dans lequel il y avait un plan fertilité qui n'était pas du tout toutes les mesures que vous me dites, qui sont toutes des mesures très intéressantes, mais qui ne font pas partie de ce plan fertilité,
pardonnez-moi,
qui n'a jamais été traduit de fait.
Qu'elle soit dans un plan ou à côté d'un plan, l'important c'est qu'elle s'applique
dans
la vie des gens.
Mais n'annoncez pas de plan si vous ne le faites pas derrière.
L'important c'est qu'elle s'applique dans la vie des gens. Et encore une fois, je nie pas l'importance de ce sujet parce que je suis convaincue.
Non, je parle du problème de la concrétisation des promesses.
Que c'est pour l'avenir et pour le présent par ailleurs un sujet absolument racine. Quand on parle des retraites, quand on parle du financement du grand âge, quand on parle de la sécurité
là,
sociale,
ouais,
quand on parle d'immigration de travail, tiens, eh bien tout ça, c'est lié à la question de la natalité.
Il y avait un autre dispositif qui avait été annoncé, c'était le dispositif « Un médecin près de chez vous ». Et là encore, grandes annonces et très petits effets. On a mené l'enquête sur RMC, il y a au moment où on se parle, 250 médecins qui ont répondu à l'appel. 250 médecins volontaires dans tout le pays.
Oui, mais on continue à travailler. Prenez l'exemple des maisons France Santé, annoncées par le Premier ministre, qui sont en train de se déployer dans tous les départements, qui dépendent d'ailleurs du budget de la Sécurité sociale. On revient toujours là. Si on n'a pas de budget de la Sécurité sociale, on n'aura pas de déploiement des maisons France Santé. Et donc, je le redis, ce qui se passe dans les prochains jours, ça répond à cette problématique-là.
Une question sur les propos de Sophie Binet, de la CGT. Elle avait dit, à propos des patrons, que les rats quittent le navire. Elle est mise en examen pour ses propos. Est-ce que quand on est syndicaliste, on ne peut plus dire une phrase comme « les rats quittent le navire ».
Madame de Menton, je crois, a porté plainte.
Oui, tout à fait, c'est elle qui avait porté plainte. La justice. Et cette plainte a donc été reçue.
Et c'est son droit de porter plainte. La justice a été saisie. Voilà. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que je préfère la CGT et les organisations syndicales lorsqu'elles sont avec nous autour de la table. Et je pense que, encore une fois, les vrais enjeux auxquels on doit répondre, ils se jouent dans les semaines à venir. Il y a une conférence travail-retraite. Et d'ailleurs, j'invite Sophie Binet à y participer parce qu'aujourd'hui, la CGT refuse d'y participer. Ce sont les vrais enjeux.
Voilà. Donc, les vrais enjeux, c'est ça. Mais
quant à la question de la phrase qui a été prononcée, écoutez, j'ai assez peu de remarques à faire.
Non, mais la judiciarisation, c'est-à-dire des propos, des déclarations, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète ?
Non. Encore une fois, la justice, elle s'est saisie et voilà, et c'est, elle est parfaitement légitime à le faire. Par ailleurs, attention, parce que moi, je remarque aussi un climat de violence qui est extrêmement rude dans le monde politique. Vous commentez régulièrement des démissions d'élus locaux, des maires qui ont de plus en plus de mal à avancer dans leur mandat et dans leurs responsabilités. Rappelez-vous de ce qui s'est passé de ce qui est arrivé à mon collègue Vincent Jeanbrun, ministre aujourd'hui de la ville,
dont la maison avait même été ciblée par les émeutiers. Vous pensez aussi à l'œuf sur Jordan Bardella.
Je pense évidemment à l'œuf sur Jordan Bardella. Pardonnez-moi, j'aurais dû le citer. Sans, encore une fois, revenir sur les propos, les rats quittent le navire, je ne mets pas tout ça sur un même pied d'égalité. Mais j'invite les uns et les autres, voilà, je sais que le mot n'est pas très à la mode, mais à faire preuve de bienveillance, en tout cas de respect dans les échanges et les mots qui peuvent se tenir ici ou là.
Est-ce que je suis labellisée ou pas?
Enfin, bon.
Vous me le donnez le label ou pas?
Écoutez, c'est pas à moi de le dire.
Non, ça vous fait rire, c'est pas trop
mais oui,
là.
Ça me fait rire parce que vous reprenez là encore une fois une énorme fake news à Pauline de Malherbe. Vous savez bien que l'État ne va pas donner de label, il n'y a pas de label d'État et je ne suis pas ministre de la vérité.
Est-ce que c'était le rôle d'Emmanuel Macron de rentrer dans cette histoire?
C'est pas lui qui a soulevé le sujet. C'est la patronne, la directrice présidente, je crois, du groupe Ebra qui lui en parle dans une discussion qui est publique, hein, que chacun peut revoir, qui se tenait dans les Vosges il y a une ou deux semaines de ça. Le président de la République répond en évoquant une idée, encore une fois, qui a été soulevée par des patrons de médias, qui a été relevée dans les états généraux de l'information. Et il dit lui-même, jamais le gouvernement n'aura à faire ça, ce n'est pas le rôle du gouvernement. Et l'inverse.
Mais qui déciderait de ceux qui pourraient donner le label? C'est-à-dire
mais c'est pas à nous de le dire. En fait, c'est précisément pas à nous de le dire. Nous n'avons pas à mettre nos mains là-dedans. Et le président de la République,
l'a redit
en ces mots hier au Conseil des ministres. Et j'ai eu l'occasion, d'expliquer et de rappeler ce qu'il a dit en Conseil des ministres lors de mon compte rendu. En revanche, faire dire au président de la République l'inverse de ce qu'il a précisément dit, laisser entendre et véhiculer l'idée qu'il y aurait un label d'État et qu'il y aurait un ministère de la vérité en création, pardon, mais c'est extrêmement grave.
Mais vous n'avez pas de regret, vous vous dites pas on s'est mêlé d'un sujet dont on n'aurait pas dû se mêler.
Mais on ne s'est pas mêlé d'un sujet duquel on n'aurait pas dû se mêler. Le président de la République a répondu à une question posée par une de vos consoeurs d'ailleurs, et il répond en disant que ce n'est pas le rôle du gouvernement que de poser tel ou tel label sur des médias.
Donc pour vous, c'est clair?
Mais c'est extrêmement clair.
Eh bien, merci Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, d'avoir répondu
merci à, vous.
À mes questions de journaliste. Il est 8h47 et vous êtes bien sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Et c'est tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, est restée, la vraie, dans ce studio. Rebonjour Maude Bréjon.
Rebonjour.
Elle est restée donc avec nous. Pour être bien sûr, vous n'utiliserez pas le 49.3 ?
Non. Non, non, Apolline Matin, on n'utilisera pas le 49.3.
Non, mais je ne
voilà, je suis.
Ça.
Non. Ben si. Moi je suis porte-parole du gouvernement, d'accord? Donc si à un moment donné on n'écoute pas la parole que je porte, à quoi je sers? Non mais arrêtez avec vos fake news, Pauline Malherbe, je ne suis pas ministre de la vérité, hein. Je suis juste porte-parole du bordel gouvernemental.
Ah, voilà. C'est bon. Merci beaucoup Maude Bréjon. Jean-Michel Apathy est avec nous, bonjour, vous souhaitiez ajouter quelque chose?
Écoutez Apolline, je voulais revenir sur votre interview de Maude Bréjon. Elle est porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va au carton tous les jours au quotidien. Elle te met des trucs invendables dans de jolies formules. C'est comme un restaurant, c'est pareil. Pareil. Quand vous lisez farandole de filet de Colin en chapelure grand-mère sous son nuage de pommes de terre, hein, tu sais qu'en fait, tu vas bouffer deux croustibates avec de la pourrie mousseline. Hein.
Donc, vous savez traduire le mot de Bréjon?
Oui, parce que j'ai fait porte-parole du gouvernement, deuxième langue, vivant.
Ah oui. Voilà.
Quand Maude Bréjon dit la façon de passer ce budget est accessoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire le budget, on va taper dessus avec le pied jusqu'à ce que ça rentre, que ce soit par 49.3, par ordonnance, en s'alliant avec n'importe qui, en tout cas, il nous faut un truc. Voilà. Hier, Maude Bréjon nous a sorti quelque chose. Elle a une belle formule. Elle a dit : ce budget ne sera ni macroniste, ni socialiste, ni de droite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça va être une merde sans nom et personne ne sera un programme.
Ah oui !
Voilà, il faut savoir traduire.
Bien sûr.
Voilà, c'était Jean-Michel Duolingo.
Voilà, c'est ça. Merci Jean-Michel. Jean-Pierre Foucault voulait également réagir.
Oui, tout à fait. Bonsoir, monsieur Apollet. Bonsoir à tous. Effectivement, j'ai bien écouté la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, nous dire que ne pas avoir de budget, c'est pas bien, que la désinformation, c'est pas très gentil. Elle nous a dit également que l'écologie, c'est important, et que la France veut la paix dans le monde.
Oui.
Eh bien, je suis heureux d'annoncer à Maude Bréjon qu'elle est tout à fait prête pour participer au concours Miss France ce week-end, aux côtés de Miss Nouvelle-Calédonie. Donc nous aurons Maude Bréjon, Miss Nouvelle-Macronie.
Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre. Allez, tout de suite, on retrouve Thibaut Texer pour les titres de l'actualité.
Eh oui, bonjour Apolline, ici Thibaut Texer, le journaliste qui n'a pas besoin de porte-parole parce que sa voix, elle porte déjà suffisamment comme ça. Après la condamnation de l'État pour défaut de cours d'éducation à la vie sexuelle, l'enseignement privé catholique tient à rappeler que de son côté, il a toujours été précurseur et exemplaire en la matière. Et puis, cambriolage chez François Hollande. Très peu d'objets de valeur ont été dérobés. Ségolène Royal souhaite réagir.
Oui. Oui, bonjour Apolline. Oui, je confirme que rien n'a été dérobé chez François. Est-ce que vous savez pourquoi?
Ben non.
Hein? Mais parce qu'il n'y a pas d'objet de valeur chez François. Il n'y a même pas de valeur du tout. Hein. Il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de fidélité chez François. Hein. La seule chose qui avait un peu de valeur chez lui, ben elle s'est barrée en 2007 et elle est en train de vous parler au micro. Voilà.
C'est ça, merci beaucoup. On sent qu'un petit peu d'amertume. Merci Madame Royal. Bonjour, tiens, Monsieur Hollande, justement, qui arrive. Je crois que vous aussi, vous souhaitiez réagir.
Oui, déjà pour... j'ai demandé s'il s'agit de Maude Bréjon, c'est excellent, parce que moi je suis aussi Maude de Bel. Et je voudrais m'inscrire en faux sur les propos qui viennent d'être tenus à l'instant. Des choses de valeur, il y en avait à mon domicile. Déjà, le bilan de mon quinquennat, de 5 ans de travail que j'avais couché sur papier à la main méticuleusement.
Ah oui.
Mais heureusement, ils n'ont pas retrouvé le document parce que je l'avais caché, ce post-it, de façon assez judicieuse en le collant sur le frigo. Et je ne vous parle pas de mon programme pour redresser la France en 2007 que j'avais mis au congélateur afin de le conserver au mieux. Oui, parce que c'est le même que 2012.
C'est bien, merci monsieur Hollande. Vladimir Poutine se dit prêt à un conflit contre l'Europe. On parle beaucoup de guerre sur tous les plateaux télé. Et on a notre spécialiste Didier François, bien sûr.
Oui, alors je me présente, Didier François, pour ceux qui me connaissent pas. Je suis le spécialiste du renseignement, de l'armement, de tout ce qui est militaire. Et à côté de ça, pour me détendre, j'ai autre chose dans la vie. J'ai trois autres grandes passions. Les théâtres de guerre, les champs de bataille, les zones de combat. Ah, alors, sur le plateau de BFM, vous me reconnaîtrez facilement. Je suis le seul qui parle de la guerre avec la banane. Ouais, parce que j'adore quand ça pète, j'adore la guerre. Voilà. La guerre en Ukraine, il faut savoir qu'il y a... récemment, je suis sur Mariupol. Il y a une petite poche de résistance de 8 hommes au niveau, là, les dernières infos, au niveau du pont de Krzysztof qui enjambe la rivière Dragushkin, sur la route entre le village de Baryushkav et Mariupol, quand vous prenez à gauche au deuxième rond-point.
D'accord, oui, c'est précis ça.
Oui, alors hier, aux alentours de 23h20-23h25, les premiers tirs ont été entendus, les combats ont duré entre 23-24 minutes. Un sergent ukrainien de 32 ans, originaire d'Odessa d'ailleurs, parce que Andrea Pinchcook a été touché au cinquième métacarpien, la main gauche. Alors attendez, là j'ai plus le temps parce que j'ai mon bus qui passe pour Mariupol, qui part pour Mariupol dans quelques minutes, donc je vous reviendrai demain pour des infos plus précises.
Bien sûr, merci beaucoup Didier François. Et le week-end dernier, Airbus a immobilisé 6000 avions en raison d'un logiciel vulnérable aux radiations solaires. Et là, rebelote à nouveau un problème sur ces avions. Jean Castex est avec nous. Jean Castex, bonjour, vous êtes le patron de la SNCF. Vous voulez réagir aux avions, vous ?
Oui, bonjour, madame de Malherbe, c'est un peu prêchant. D'abord, je voulais vous dire que je compatis pour nos amis avionneurs. N'est-ce pas? Et en même temps, ça nous fait du bien, SNCF. Ça montre que nous avons, au niveau des trains, nous sommes très fiables. Voyez-vous, avec un train, aucun risque de crash. Non, vous pouvez rester avec nous, madame Bréchon. N'hésitez pas à vous barrer en plein. Hein, non, ça ne se fait pas. Alors, avec un train, sachez qu'il n'y a aucun risque de crash aérien. Voilà. Avec un train, si parfois un train peut être arrêté pendant 12 heures, c'est la chose que vous risquez la nuit à cause de la chute de 14 feuilles mortes sur les voies. Mais tout ce que vous risquez, c'est de devoir attendre l'intervention de nos équipes qui se déplaceront à 42 personnes pour retirer ces 14 feuilles mortes en 8 heures de temps, en prenant soin de ne jamais vous donner la moindre information pour ne pas vous inquiéter inutilement. Car c'est ça la SNCF. Et puis, vous allez perdre quoi? Et au pire, vous raterez un dîner chez votre belle-mère à Besançon. Mais la SNCF, jamais on ne vous fera rater 3 semaines de vacances exotiques, de bronzettes et de stages de plongée bouteille. Parce que, je vous le dis, madame de Malherbe, je vous le dis, la SNCF, jamais nous n'avons annulé un train pour les Maldives.
Merci Nicolas Tanteloup. Merci, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement.